Hello les amis. Oui, c'est un peu exceptionnel. Oui, on essaye des nouvelles choses parce qu'il faut jamais s'endormir et essayer des nouvelles choses. Et une chaîne Twitch, TikTok, puisqu'on est aussi sur TikTok cet après-midi, c'est une chaîne qui doit aussi être en mouvement, en évolution. Et je me suis dit, et pourquoi pas une revue de presse le samedi. Cette revue de presse est née il y a 5 ans sur la chaîne Twitch d'abord, aussi souvent que possible. Voilà, souvent 4 à 5 jours par semaine. Et puis, à un moment, on s'est dit il y a quelques mois qu'il fallait que ce rendez-vous devienne quotidien. Donc, c'est vraiment du lundi au vendredi, quoi qu'il arrive. Et puis là, bon, hier soir, j'ai pas fait de gaming parce que j'ai passé la soirée en famille. Mais ce samedi, ouais, j'ai vu pour Squeezie, c'est rigolo. Et ce samedi, en fait, j'ai lu les journaux ce matin pour le plaisir, comme je fais souvent pour moi. C'est-à-dire que parfois, je lis des journaux que je ne vous lis pas à vous. En cachotier, et je me suis dit ce matin qu'il y avait quand même de l'actualité et de bons articles. Et je me suis dit, tiens, il y a un monde où on fait une revue de presse ce samedi après-midi. Il est 16h17, on y est. Je vois un coucou de Brisbane, d'amis australiens ou de français qui vivent en Australie, c'est bien cool. Voilà. Donc, petite revue de presse du samedi après-midi. L'après-midi, Étienne, du coup. Vous allez voir, on a des trucs plutôt intéressants. Comment ça va, vous? Moi, j'ai mis un petit message aussi tout en haut du chat, côté Twitch. Hein. Pour vous remercier d'être là, mais n'hésitez pas aussi à aller soutenir les streamers, les streameuses engagées pour Stream for Humanity. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jolis créateurs de contenu mobilisés là pour cette belle cause là en ce moment même. Donc n'hésitez pas cet après-midi, ce soir, demain également. Je pense que c'est jusqu'à demain soir. Aller soutenir les nombreux streamers mobilisés pour Stream for Humanity et les belles assos qui ont été choisies par les organisateurs. Ah, coucou ta maman, au Linux. Salut Samuel, j'ai pas pris le temps de regarder tes vidéos sur Dispatch, désolé, mais je voulais avoir ton avis rapidement sur le jeu. On a fait 3 streams, donc je pense qu'on est sur une grosse dizaine d'heures. Donc effectivement, je ne t'oblige pas à les regarder, mais sache que j'ai beaucoup aimé Dispatch. Un peu malade ici, me dit Camille, il pleut, je reste au chaud. J'espère que tout le monde est en bonne santé. Et effectivement, il y a des petits virus. Moi-même, j'ai un peu la goutte au nez. Là en ce moment là, la nuit a été courte parce que je n'étais pas à 200%, mais un petit peu de Doliprane et un café et c'est reparti. Voilà. Mais si vous trouvez cet après-midi que je dis des choses qui ont encore moins de sens que d'habitude, on mettra ça sur le dos du virus. Quelqu'un me parlait d'une blague de Squeezie. Merci Lolo Coconuts, merci pour le troisième mois, merci à toi. Merci Carole CGM, merci, je t'ai vu tout à l'heure. Oui, Squeezie qui aurait invité un sosie. Mais un sosie de qui? Un sosie de moi? À Stream for Humanity? Tant que ce n'est qu'au nez, je m'attendais à cette blague, Sugar. Je savais que tu allais la faire. Hein, je parlais de la goutte au nez. Et on a un tant que c'est qu'au nez. Je savais, Sugar, que tu allais faire cette blague. Voilà. C'est quoi cette histoire de sosie, de Squeezie, de Stream for Humanity? C'est-à-dire qu'il a invité un. Il a invité quelqu'un qui me ressemble, en vrai ou pas? Salut Edouard. Salut Mama. Un Doliprane à Mars, ça repart. J'ai pris que le Doliprane pour ma part. En ce moment, j'ai faim. Ah, de Daniel Radcliffe. Oh, de pas de moi alors. Je trouvais ça bizarre aussi. Daniel Radcliffe, c'est Harry Je dis une bêtise ou pas? C'est ça ou pas? C'est ça, hein? Salut Samuel, je m'ennuyais et voilà que tu vas tuer mon ennui avec ces actualités. Merci, merci, merci Mani. Ne me remercie pas encore, le stream n'est pas fait. Hein. Ok. J'ai pas dit que c'était toi. Bon, ça, c'est le syndrome du personnage principal. Tout de suite, j'ai pensé à moi. Je reviens sur Quoi de neuf docteur, donc la vidéo YouTube que j'ai fait chez l'ami DFG. Sugar me demande si tu avais pu appliquer ta charge d'entraînement Ironman à l'âge où tu as fait ton 3h13 sur marathon, penses-tu que tu aurais fait un meilleur temps ou c'était ta limite? Ah non, j'aurais fait mieux, ouais. Non, parce qu'au moment où j'ai fait mes Ironman, je vais aller 4h, 3h45 sur marathon max, quoi. Donc je pense que j'aurais fait des meilleurs temps d'Ironman à l'époque, ouais. Ouais, bon, enfin, bon, ça va, hein. Ok. J'ai une confession à vous faire, ça me travaille depuis hier. J'ai une confession à vous faire. Ça me travaille depuis hier. Voilà. je ne sais pas si j'ai bien agi. Et je voulais votre avis. Ça me turlupine. Ça m'ennuie. J'ai fait quelque chose qui est un move un peu bizarre. Dis-nous tout, mon fils. J'ai l'impression que je suis à la confession. Et donc, je parle hyper sérieusement. Non, non, c'est pas ma candidature en 2027. Ça, il n'y a aucun problème. Et en fait, je me demande si j'ai bien agi. En douce, de temps en temps, je lance des renquêtes valo sur mon compte principal, celui qui est reparti en fer 3, là, après avoir, à pouvoir être remis à zéro. Juste, voilà, juste pour le plaisir. Enfin, le plaisir. Je vais mettre des gros guillemets de retrouver la renquête en solo queue et avec les surprises des games, quoi. Donc, je lance. C'était, je sais plus quand c'était, hier en fin d'après-midi. Voilà, donc j'ai pas streamé ça, mais j'ai lancé un stream en solo queue sur Valo, sur Valorant, ok. Donc j'en lance une. Je trouve que l'ambiance est moyenne dans la team, mais ça se passe bien, on gagne. Voilà. Ah, tu as lose 8-13 sur Coro d'hier. Ah bah j'avais pas le score. D'accord, donc j'avais pas le score, vous allez comprendre pourquoi j'avais pas le score. Donc une première partie, on la gagne, je prends 33 points. En vrai, je trouve que l'aim s'est un peu amélioré, mais en même temps, on est en fer. Alors même avec beaucoup de gens qui sont pas à leur vrai niveau, ça le fait, quoi. Et je lance une deuxième dans la foulée. Il était 18h, quoi. Et ça se passe bien. Alors au début, je montre que je veux prendre Gecko, mais j'installe pas. Puis les autres arrivent. Quelqu'un veut pré-shot Gecko aussi, il me demande si c'est ok, je lui dis pas de problème et tout, donc voilà, donc je laisse Gecko, je prends Race, toi ça commence plutôt bien. Après j'arrive dans une équipe où ça parle a priori espagnol, donc ils ont l'air de bien se connaître, donc je pense que je tombe dans une team d'espagnols, peut-être des gens qui se connaissent, et la partie se lance, ça se passe bien, on est plutôt fort par rapport à l'autre équipe, mais dès le premier round, mes mates sont un peu agressifs, quoi. En me reprochant de pas jouer comme il voudrait que je joue, quoi. Je suis plutôt bien parce que je fais en très peu de rounds, je fais 9 kills, tu vois. Mais vraiment les gars sont pas cool. D'ailleurs sur la première game j'avais carrément mute les micros parce que les mecs étaient pas très cool non plus, quoi. Il y a vraiment en solo queue un problème de comportement, quoi. Et là ça recommence et des mecs qui sont super chauds. Et qui m'insulte dans ce que tous les joueurs de Valo connaissent au quotidien, quoi. Dans le chat et en vocal, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on gagnait en plus, on menait, mais je jouais pas comme ils voulaient, quoi. Et je les ai trouvés vraiment très très agressifs, très injustes, un peu excessifs. Et là, bah, j'ai fait un petit Alt F4. C'est-à-dire qu'au milieu de la phrase du leader, il y avait un gars un peu plus âgé que les autres qui était le plus agressif et qui me reprochait en gros d'être là, quoi. Alors qu'en gros, je vous le dis, j'étais plutôt en tête de la team par ailleurs, ça jouait plutôt bien. J'ai claqué un petit Alt F4 et j'ai laissé ma team sur le carreau, quoi. Donc je viens d'apprendre qu'on a perdu là. On a perdu 8-13 alors qu'on menait bien, quoi. Donc je m'en veux un peu parce que bah, du coup j'ai impacté la game d'une merci Bérangère, voilà. D'une équipe en ranked en plus, hein. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était la sanction juste contre des comportements qui étaient des comportements agressifs et toxiques, quoi. Voilà. Et je pense que je le referai. Ah oui, juste avant. Attendez, en fait, c'est la cerise sur le gâteau et au truc, la goutte qui a fait déborder le truc, c'est que juste avant, au moment en fait, une minute avant que je prenne cette décision qui est un peu radicale, un des gars me dit enjoy Urban. C'est-à-dire qu'en fait, ma manière de jouer qui était ok en plus. Hein. Je vous dis, la Arena qui était super agressive. Elle m'a agressé dès le deuxième round. L'arena, elle était bottom frag avec un kill. Je crois que j'étais déjà à 5 ou 6. Et donc, l'arena où un autre me dit enjoy Urban. C'est-à-dire que lui et éventuellement le reste de la team m'avaient signalé, quoi. Parce que mon mode de jeu leur allait pas. Et là, j'ai craqué, quoi. Donc, j'ai fait un Alt F4. Ils ont perdu la game. Tant pis pour leur gueule. Tant mieux, pardon, pour leur gueule. Et j'ose pas réouvrir Valo parce que je pense que mon compte, je pense que mon compte a dû prendre un petit peu, quoi. Voilà. Peut-être que j'ai une petite suspension pour la première fois. Est-ce qu'il aurait pas fallu exprimer tout ça et essayer de discuter un peu? Alors, les mecs étaient vraiment violents et puis en plus ils parlaient espagnol et je parle pas très, très bien cette langue. Voilà. Donc j'ai pris cette décision vraiment dans un esprit de sanction, quoi. Mais ça m'a turlupiné parce que je me suis pendant de longues heures après, je me suis vraiment demandé si j'avais pris la bonne. Je pense que peut-être la bonne solution ça aurait été de les mute, de jouer et de les signaler. Mais bon, le dîner approchait. Je savais que j'allais être en retard de toute façon pour le dîner avec les enfants. J'ai dit, qu'est-ce qui est le plus important, le dîner avec mes enfants ou jouer avec des connards? Voilà. J'ai même pas signalé du coup. Je me suis barré. Ouais. Ouais, j'aurais dû mute et signaler. Ouais. Et du coup, je l'avais fait pour la première game d'ailleurs. Donc voilà. Mais ils m'ont fait craquer, quoi. Ils m'ont fait tilter, quoi. Le Enjoy Urban. Alors que franchement, ils jouaient comme des tasses à café et que pour une fois, je faisais une belle game. J'ai craqué, quoi. Ah, bon, désolé. Et en plus, ouais, littéralement, ils voulaient me ban en plus. Ils m'avaient signalé, quoi. Alors que j'étais hyper chill et tout, quoi. J'ai demandé à mon fils, il m'a expliqué que c'est quelque chose qui peut se faire quand c'est toxique. Ouais. Mais enfin, je pense que la bonne solution aurait été de mute all et de jouer jusqu'au bout, quoi. Voilà. Bon, les amis, trêve de bilvesée, trêve de détails. On est sur des choses beaucoup plus importantes. On a une actu assez importante aujourd'hui, des articles assez intéressants, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une revue de presse exceptionnelle. Tant pis pour le ban Invoker. Il y a d'autres FPS. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que j'ai fait une revue de presse exceptionnelle ce samedi après-midi. Voilà. Hein. Alexandra trouve que le micro est un peu faible. Si c'est le cas, je monte le micro. Je vous laisse me dire si en termes de son c'est ok pour vous. Moi je suis dans mes réglages habituels, j'ai tout vérifié, mais je vous laisse me dire. Parfois c'est juste chez vous que c'est un petit peu faible. Dites-moi, et on y va. Et on y va. C'est ok Bérangère, merci pour ton raid. Hein. Merci Sugar. Pourquoi une revue de presse aujourd'hui? Maintenant il s'est passé un truc particulier. Juste que l'actu est. Il y a des trucs forts, je trouve. Notamment un truc très fort, vous allez voir. Et puis des articles bien faits. C'est bon, c'est son. Ouais, je pensais aussi que le son était ok. Ok, je vais allumer la. Je vais ouvrir la fenêtre pour aérer un peu, ce qui fait chaud dans ce petit studio. C'est bizarre la météo en ce moment. Hein. Et puis on commence. Ok. Il pleut chez vous, il pleut à Paris. Voilà, et puis comme vous l'avez vu sur le visuel, effectivement, n'oubliez pas, il y a un samplay, le samplay de dimanche 20h, l'émission où chaque semaine, chaque dimanche soir, je découvre un nouveau jeu vidéo grâce à un invité, et c'est Camille Combal, l'animateur, le célèbre animateur de télé, aussi sympathique qu'il est dans la vie qu'à l'écran, je le connais depuis très très longtemps, qui est mon invité à 20h, Camille. Camille, qui n'est pas un grand gamer, hein, qui lui-même m'a confié qu'il n'avait pas beaucoup joué ces dernières années, mais voilà, il me fait découvrir Splinter Cell, dimanche. Celui que m'avait conseillé, parce que je vous ai demandé ces derniers jours, mais lequel il faut jouer, parce que des Splinter Cell, il y en a plusieurs, et j'ai pris le 3. Le 3. Voilà. Je ne me rappelle plus du titre, vous allez me le rappeler. Et donc, c'est celui auquel on jouera dimanche. Mais ce sera un stream chill, hein. Ouais, il paraît que le jeu est pas mal. Ok, Chaos Theory, exactement, bravo, c'est celui-là. Ok, alors je vous montre le sommaire à chacun, on va enlever le visuel de Simplay, il n'y a plus besoin, je vous l'enlève. Voilà, et je vous mets le sommaire déjà en texte. Ici aussi, le sommaire en texte, vous l'avez, je branche la tablette. Voilà, qui devrait apparaître dans pas longtemps. Et là, je l'ai débranché, c'est normal. Salut Diamiro, je vais aller voir. Je ne sais pas si j'ai vu ton message, mais je vais aller voir, je te le promets. Alors, c'est quoi le premier? Oh. Premier article, c'est une dinguerie. Voilà. Ok, sommaire. Donc, sommaire, on va commencer. Je pense que sur TikTok, vous avez la... Alors, je ne vous ai pas mis sommaire en haut sur TikTok, parce que je n'ai pas assez de caractère. Voilà. Et je vais vous parler des safaris humain, là, le truc de. Pour commencer, c'est fou. Je vous mets juste la flèche sur le sommaire. Un sommaire qui commence assez vite, qui commence à quelle heure aujourd'hui? Qui commence à 20 minutes, on va dire. Ouais, pour. Voilà. Donc le sommaire, c'est je vous dis de quoi on va parler. Hein. Je ne vous raconte pas tout, mais je vous donne l'essentiel de l'info. Comme ça, si vous ne pouvez pas passer 2-3 heures avec nous, ben, au moins vous avez l'essentiel de l'actu. Ça vous fait un petit shot d'actu, quoi. Voilà. Et je vous le mets aussi dans le titre, ici, du live. On est sur le sommaire. Et aussi ici, boum. Voilà. Ok, le sommaire. Et merci d'être là. Le sommaire, alors c'est une actu que j'ai vue la veille, un petit article dans l'Humanité, c'était jeudi. Certains l'avaient vu, cette actu m'avait dit, mais tu parles pas de ça. Et puis, il y a des actus comme ça que je mets de côté en me disant, attends, l'article, il est petit, il est pas très enfin, il est pas très gros, j'ai pas toutes les infos, j'attends un peu, d'autres médias vont en parler, ce qui s'est passé. Il y a une page entière dans le Parisien sur cette histoire. La justice. Enquête sur des safaris humains. Safari humain, qu'est-ce qu'on fait dans un safari? Alors les safaris photos, mais les safaris où tu vas tuer des animaux, déjà c'est une dinguerie. Des safaris humains. Des gens qui ont payé pour aller tirer sur des gens. La justice enquête sur des safaris humains lors du siège de Sarajevo. 30 ans après la guerre en Bosnie. L'actu est folle. Tu vois, il y a Kezlin qui dit mais what the fuck, ça existe ça? Mais comment imaginer? T'as un moment. Comment imaginer que des êtres humains soient capables de faire ça? Eh bien, il y a de forts soupçons sur le fait que cela ait pu arriver. 30 ans après la guerre en Bosnie, le parquet de Milan en Italie recherche des ressortissants étrangers soupçonnés d'avoir payé pour aller abattre des civils, des hommes, des femmes, des enfants, le temps d'un week-end. Les gars, ils vont en safari chasse, mais pour tuer des humains. Voilà. Et ils payent pour ça. Le truc est hallucinant, on aimerait croire que ça n'est pas possible. On va lire cet article ce matin. J'ai attendu qu'il y ait plusieurs articles sur le sujet pour être sûr de ne pas raconter de bêtises, c'est juste affreux. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu le contexte et les raisons de la guerre en Bosnie, s'il te plaît? Non. Car comme c'est écrit ici, c'est le sommaire. La contextualisation, c'est tout à l'heure. Là, je vous dis juste rapidement ce qu'il y a dans l'actu. Alors, il y a un gros dossier dans Le Monde qui est sorti cet après-midi, là, sur Gaza. Ça fait quand même quelques jours qu'on n'a pas eu de nouvelles infos sur ce qui se passe à Gaza. Et sur ce plan de paix de Trump, voilà, avec les espoirs que ça a pu soulever, les espoirs mesurés. Hein. Le Monde constate dans sa dernière édition qu'il y a beaucoup d'obstacles qui s'opposent à ce plan Trump. Hein, la deuxième phase du plan de paix censée s'ouvrir au moment où le dernier corps d'otages israéliens sera rendu suscite bien des doutes. Bon, c'est le cas depuis le début. Hein. Le désarmement du Hamas, première difficulté. La nature de la force internationale de stabilisation sur place, encore une difficulté. Voilà. La question de la gouvernance de la bande de Gaza, pas réglée non plus, encore une difficulté. La livraison d'aide humanitaire à Gaza, compliquée aussi. Bon, ça on le sait depuis le début, mais confirmation, il y a de vrais doutes, comme l'écrit Le Monde. Il n'y a pas les lignes sur TikTok? Oh putain! Excusez-moi, engueulez-moi TikTok! Excusez-moi, depuis tout à l'heure, vous n'avez pas les lignes. Engueulez-moi! Attends, quand je fais le sommaire, je vous montre les articles. Oh, je suis désolé, excusez-moi. C'est quelqu'un de Twitch qui m'a dit « Mais Sam, t'as pas mis les articles sur TikTok. » Ok, ça c'est l'article du Parisien sur les safaris humains à Sarajevo. Ça c'est le dossier du Monde, ok? Engueulez-moi quand vous voyez que j'oublie des trucs. Troisième sujet, mais non, je néglige pas, j'ai ressenti, je vous adore. Merci, Buginer, pour le 22e mois. Troisième sujet, c'est pas celui-ci, je l'ai mis à la fin. Ce sera pas le football, ce sera ce crime d'avertissement, point d'interrogation, à Marseille. Encore une histoire folle. Mehdi, 20 ans, petit frère d'Amine Kessassi, militant écologiste de 22 ans, engagé, ce militant dans la lutte contre le narco-banditisme, son petit frère de 20 ans a été assassiné par un commando à moto vendredi à Marseille. Voilà. Ce jeune homme que vous voyez en bas à gauche ici, voilà, c'est le petit frère de l'autre jeune homme que vous voyez en haut à droite, et la victime aurait été abattue de 4 balles pour faire peur à la famille et au grand frère notamment qui est engagé dans la lutte contre le narco-banditisme. C'est une dinguerie. Mais tout à l'heure, je disais, dans quel monde vivons-nous à propos du safari humain, mais dans quelle France vivons-nous? C'est fou quand même. Hein. Bon, après, je ne veux pas faire mon réacte de service. L'insécurité en France, le trafic de drogue, ça a toujours existé. Hein, et les monstruosités qui l'accompagnent. Mais là, c'est quand même fou. Quoi. Ces actions, on dirait des films. Blurina, t'as raison. Voilà. Donc, ce sera le sujet qu'on évoquera tout à l'heure également. Après, on parlera du foot. Alors, pas du foot en mode résultat, blablabla. Non, les questions sur le prochain mondial. Donc, qui se passe en 2026. Donc, 11 juin, 19 juillet, mondial de football. Hein. Dans 3 pays d'Amérique du Nord. Donc, on parle des États-Unis, du Canada, du Mexique, si je ne dis pas de bêtises. 48 équipes pour la première fois. Beaucoup plus que d'habitude. Une Coupe du Monde qui s'annonce révolutionnaire, mais énergivore aussi. Avec beaucoup de déplacements. En avion, a priori. Voilà. Donc, le Parisien nous alerte un petit peu sur ce mondial de tous les excès. Fait le point aussi sur les chances des Bleus, les Bleus qui visent l'étoile. Putain, je suis nul en foot. On a déjà deux mondiales, nous. On a déjà gagné deux fois, non? C'est ça. On est dans le petit club des pays qui ont gagné les Coupes du Monde, c'est ça. Et là, on en viserait une troisième. Voilà. C'est ça. 98-2018. Ok, super. On se penchera là-dessus. Moi, c'est un sujet qui me fascine aussi, c'est l'essor des robots taxis. Voilà. Moi que je suis pas un grand conducteur, j'aime bien l'idée qu'un jour on se mettra dans notre voiture, on lui dira tiens va là, et puis pendant ce temps là on pourra faire des choses, on pourra lire des livres, on pourra jouer à des FPS et faire Alt F4 quand tu tombes sur des joueurs toxiques, tu pourras lire des histoires à tes enfants, tout ça. Mais ça pose des questions aussi de sécurité, de conséquences sur l'emploi aussi. Et donc là il y a un sujet dans le Figaro sur l'essor des robots taxis qui aiguisent l'appétit des gens de la tech parce qu'ils sont en train de se rendre compte. Ils sont en train de se rendre compte qu'il se passe des choses et les investissements sont de plus en plus gros. Ce truc est en train de nous arriver très très vite, beaucoup plus vite qu'on imaginait il y a quelques années. Les robots taxis, on verra de quoi ils retournent. Hier, merci la commu, on parlait d'un sujet sur, je sais plus quoi, dans l'univers des jeux vidéo, j'ai oublié. Ah oui, sur la sortie de... Hier, on a parlé d'un article du Parisien sur la sortie de Call of Duty Black Ops 7. D'ailleurs, c'est marrant, Alors, je voulais le lancer hier soir, finalement j'ai préféré passer une soirée en famille. Et surtout je me suis rappelé que je devais le lancer dans Samplay dans quelques jours, quelques semaines avec un invité, donc du coup je ne l'ai pas lancé. Mais du coup j'ai vu pas mal de retours, je fais une petite parenthèse sur Black Ops 7 là, les retours notamment sur le mode histoire, sur les réseaux, qui sont pas fous hein. Hein? Qui se fait pas? Enfin, alors après... C'est surtout sur X, le réseau, où ça cherche un petit peu du like vite fait. Mais tu vois, ça a l'air spécial, pas très réaliste. Finito Black Ops. Il est gaze carrément, me dit Spinocha, ok. Ouais, voilà. J'ai l'impression que les retours sont pas fous. Après, les gens qui disaient, ouais, les retours sont pas fous, mais ils vont en vendre 10 millions comme d'habitude, quoi. Voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que hier, en parlant de Black Ops 7, certains me disaient, mais tu parles pas d'Ubisoft et des difficultés d'Ubisoft? Bon, alors Ubisoft, j'ai l'impression qu'on en parle toujours que pour parler des difficultés. Et effectivement, Ubisoft est suspendu en bourse. Il y a un truc qui va pas, là. C'est le plus grand studio français de jeux vidéo, vous savez, c'est le plus grand studio au monde aussi. Hein. Merci Graceware pour l'abonnement offert à Sarah. Merci Buginer. Et il y a une annonce non expliquée, donc qui suscite bien des interrogations, de différer la publication des résultats du groupe. Voilà, et qui intervient en pleine réorganisation du jeu vidéo. Du coup, le cours de l'action a été suspendu. Voilà, qu'on se penchera sur ce sujet, article dans le Figaro. Et puis, on est dans le monde. On est dans le monde, je feuillette le monde. Voilà. Et qui je vois dans le monde? Qui je vois dans le monde? Dans un gros dossier. Hein? Alors, est-ce que c'est pas une surprise ça? Tu feuillettes le monde. Et tu vois qui? Eh oui, Nico. Voilà. Incroyable. C'est fou, non? Dans le monde, mesdames et messieurs. Et donc, c'est un dossier, en fait, sur dans le monde, sur les fans des créateurs de contenu. Voilà. Voilà. Donc, Nico, Bailan, La Grande Marche, vous savez, entre Montpellier et Paris, un des donation goals du The Event, voilà. Et le monde en profite pour se pencher sur les fans, l'idolâtrie, parfois, de certains vis-à-vis des créateurs de contenu, YouTube, TikTok, la nouvelle idolâtrie. L'essor des créateurs de contenu a fait naître une nouvelle forme de célébrité, hein, différente des célébrités d'avant, quoi, avec les artistes notamment, ou les sportifs, fondée sur la proximité et l'authenticité. Où les fans entretiennent des relations parasociales on va définir ce que c'est tout à l'heure, les relations parasociales, fortes, parfois excessives, avec des figures qu'ils perçoivent comme des amis. Voilà. Donc il y a un gros dossier dans le monde, on verra s'il est pertinent. En tout cas, il y a un gros dossier, on finira là-dessus. C'est pas mal, hein? Voilà pour le sommaire de ce samedi après-midi. Vous trouvez pas qu'il y a une belle matière, là? C'est pas mal, hein? Et on va commencer par une dinguerie. Sam, ça te juge chez Squeezie. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire depuis tout à l'heure, Tom Todd? Raconte, là, parce que tu parles de Squeezie depuis tout à l'heure. Racontez-moi, je voudrais comprendre. C'est quoi l'histoire? Dis. Non, mais dis, c'est intéressant, parce que là, on va parler de Safari Humain à Sarajevo. Donc, pardon, mais il faut vraiment que ce soit un peu pertinent et important, parce qu'on est quand même en train de parler de choses super, super importantes. Ça parle de greffe. Et vraiment sur du contenu de qualité, le Squeezie. Il fait un tier list sur les patients qui ont fait une greffe. Bon, ok. Alors, je ne commenterai pas. Il se trouve qu'ici, on va parler du Proche-Orient. On va parler d'assassinat à Marseille. On va parler de safari humain à Sarajevo. Donc, vous m'excuserez de ne pas me pencher sur le sujet de la calvasse, qui est un sujet qui me fait beaucoup rire en vrai. Mais on est sur. Donc, s'il vous plaît, par pitié, Tom Thompson et les autres. Oubliez Squeezie là, le temps du stream. J'ai l'impression que ça va plus nous sortir des sujets qu'on va évoquer là. D'accord? D'accord? S'il vous plaît. Ne serait-ce que pour toutes les victimes qu'on va évoquer dans un instant. On va commencer par ce safari humain en Bosnie. Rien que ces mots sont fous. Voilà. Allez. 31 minutes. Let's go. Incroyable. 38 minutes, ok, je vous mets le titre de partout. Rien que ce titre, il est fou. Rien que ce titre, il est fou. Safari humain en Bosnie, une petite virgule. Voilà. Dans le titre du stream, c'est lunaire, comment c'est possible? Je ne sais pas, Écoutez, moi j'ai découvert l'actualité hier dans l'Humanité, je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas y croire et pourtant je trouve une page dans le Parisien aujourd'hui, je me suis dit, donc, c'est donc que ce truc, c'est peut-être, c'est une enquête, hein, peut-être tenue. C'est surréaliste. TikTok, je vous mets la flèche qui va bien et on y va. C'est fou. Oui, un FPS IRL, putain mais Faf, t'as raison. Mais c'est ça qui est fou. Tu as raison, c'est quelque part un FPS IRL. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, je vous lis le Parisien. Sachez que vous aviez un article dans l'UMA aussi hier. La justice, c'est le Parisien qui nous le dit. Enquête. C'est la justice italienne, si j'ai bien compris. Non, pas des safaris photos. Des safaris pour tirer sur des gens. Sur des safaris humains, lors du siège de Sarajevo. 30 ans après la guerre en Bosnie, le parquet de Milan en Italie recherche des ressortissants étrangers. On va voir quels ressortissants étrangers d'ailleurs. Soupçonné d'avoir payé pour aller abattre des civils le temps d'un week-end. Soupçonné d'avoir payé pour aller abattre des civils le temps d'un week-end. Le petit voyage avec son fusil pour tirer sur des gens. Lisons. On les appelle les tireurs d'élite du week-end. De riches étrangers prêts à débourser des milliers d'euros pour tuer hommes, femmes, enfants, durant le siège de Sarajevo, mené, alors quelqu'un me demandait de recontextualiser, ce siège mené par les Serbes à l'époque de Bosnie, au début des années 90. Trois décennies plus tard, l'Italie espère démasquer certains de ses snipers. Selon le quotidien La Repubblica, le parquet de Milan cherche à identifier des Italiens, principalement, je crois qu'il y avait beaucoup d'Italiens, mais pas seulement, vous allez voir. Si le Parisien ne nous le dit pas, j'irai voir l'article de l'Humanité. Qui entre 93 et 95, c'est très précis, ont payé pour jouer à la guerre et tuer des civils sans défense pour le plaisir. Je dois répéter cette phrase. Des civils, donc des Italiens, qui entre 93 et 95, ont payé pour jouer à la guerre et tuer des civils sans défense et pour le plaisir. Ont payé pour jouer à la guerre et tuer des civils sans défense pour le plaisir. Alors, des Italiens, mais pas seulement des Italiens. Une enquête a été ouverte contre X pour homicide volontaire aggravé. Il y a 30 ans déjà, on évoquait, donc là c'est en justice, mais en fait ce truc, j'apprends qu'on en parle depuis longtemps. Il y a 30 ans déjà, on évoquait des vacances en Bosnie pour faire la guerre. Ces tireurs ont été mentionnés face au juge de la Haye lors du procès de Ratko Mladic, commandant de l'armée serbe de Bosnie. Donc cette histoire, on en parle depuis un petit moment. Moi je ne savais pas ça. Des témoignages ont alimenté l'histoire, comme celle de John Jordan, ancien pompier américain volontaire à Sarajevo, hein, à propos de ces tireurs qu'il a dû voir, croiser. Ils ne me semblaient pas être des locaux, leurs vêtements, leurs armes faisaient penser à des tireurs touristes, avait-il déclaré en 2007. La justice bosniaque s'est un temps penchée sur cette affaire, finalement classée sans suite. Elle ressurgit régulièrement à la sortie d'un livre, par exemple. Il y a un monsieur qui s'appelle Luca Leone, qui doit être journaliste italien, qui a écrit un livre qui s'appelle Les bâtards de Sarajevo, ou un documentaire Sarajevo Safari, d'un réalisateur slovène qui s'appelle Miran Zupanic. Cette affaire reprend aujourd'hui, pourquoi? Grâce à un écrivain italien qui s'appelle Ezio Gavazzeni. Ce que j'ai appris d'une source en Bosnie-Herzégovine, c'est que les services de renseignement bosniaques ont alerté le quartier général local du SISMI, l'ancien service de renseignement italien, fin 93, de la présence d'au moins 5 Italiens dans les collines entourant la ville, accompagnés d'individus ayant pour but d'abattre des civils. C'est ce que cet écrivain écrit dans un document de 17 pages, daté du 28 janvier dernier, qui a été adressé au parquet de Milan. L'écrivain ne s'est pas lancé par hasard dans cette folle enquête. La maire de Sarajevo, Benjamina Karic, l'a contacté pour le mettre sur la piste de participants à ces opérations macabres. Elle-même avait déposé une plainte en Bosnie après la diffusion du documentaire dont on a parlé tout à l'heure, Sarajevo Safari. Certaines sources y parlent d'Américains, de Canadiens, de Russes, mais aussi d'Italiens, prêts à payer pour jouer pour de vrai à la guerre. Voilà. Moi, j'ai lu dans l'article de l'Humanité qu'il y avait des noms français aussi qui avaient circulé. L'écrivain se met à rassembler des preuves, beaucoup de preuves. J'ai agacé la moitié du monde, des sources bosniaques et italiennes. Les Serbes, cependant, n'y croient pas et considèrent cela comme une légende urbaine. C'est donc en Italie qu'il a relancé l'enquête pour exposer ceux qui cachent leur vérité, a-t-il confié mardi. Il s'agit de gens riches, jouissant d'une bonne réputation, d'entrepreneurs qui, pendant le siège de Sarajevo, ont payé, auraient payé, hein, puisque pour l'instant, il n'y a pas de procès, pour pouvoir tuer des civils sans défense. Ils ont quitté Trieste en Italie pour la traque, puis ils sont revenus chez eux et ont repris leur vie comme si de rien n'était, respectable aux yeux de tous. Des citoyens ordinaires liés au milieu d'extrême droite. L'article de l'Humanité évoquait lui aussi hier des gens qui, pour la plupart, étaient d'extrême droite, passionnés d'armes à feu, avec suffisamment d'argent et de bons contacts pour recourir à ce service. Selon la plainte, il voyageait de Trieste à Belgrade, en Serbie, à bord d'un vol de la compagnie serbe Aviogenex. Pour participer à ces safaris macabres, il payait jusqu'à 100 000 euros par jour, indique le quotidien transalpin Il Giornale, qui avait révélé le 1er juillet l'ouverture d'une enquête italienne. Ces déplacements étaient présentés comme des séjours de chasse à l'étranger, une couverture permettant de justifier les vols de groupe. C'était habillé sous la couverture « séjour de chasse ». Ces tueurs de sang-froid pourraient être... J'étais en train, moi je lis le journal comme vous, là, en train de découvrir les infos, j'étais en train de me dire, bon, ça va être une poignée de personnes, je veux dire, des dingues comme ça, ils sont quoi, 4-5 quoi. Ces tueurs de sang-froid pourraient être une centaine. J'espère qu'ils pourront localiser au moins un ou deux, peut-être une dizaine, a déclaré Ezio Gavazzeni. La source de l'écrivain n'est autre qu'un espion bosniaque. Voilà. Cher Ezio, les services secrets bosniaques ont eu vent de ces safaris fin 93. Tout s'est passé durant l'hiver 93-94, lui a écrit cet ancien agent des renseignements. Certains casques bleus présents sur place en entendaient aussi parler, comme le colonel français Michel Goya, aujourd'hui analyste et historien militaire, dont le job était alors de flinguer les snipers. Les bosniaques disaient, donc témoigne ce militaire français, que des gens du camp d'en face payaient des emplacements de chasse. Se souvient-il. Il prenait un plaisir sadique à tirer sur tout ce qui bouge, y compris enfants et animaux. Je supposais, dit ce militaire français, que c'était plutôt de riches Serbes. C'était un bruit qui courait, mais on n'avait pas de preuves. Était-ce un élément de propagande pour diaboliser un peu plus les assiégeants? Grâce à l'interrogatoire d'un volontaire serbe capturé, la rumeur prend corps. Il a témoigné, ce volontaire serbe, merci Duduche du Rocrosard, que 5 étrangers l'avaient accompagné de Belgrade en Bosnie-Herzégovine, dont au moins 3 Italiens, écrit cet ancien agent secret dans son courriel, un homme de Milan, un homme de Turin et le troisième de Trieste. Ce dernier serait propriétaire d'une clinique privée spécialisée en chirurgie esthétique. À l'époque, nous avons partagé ces informations avec les responsables du SISMI. C'était le nom du service secret italien de l'époque. À Sarajevo, car il y avait des indices laissant penser que des groupes de touristes composés de tireurs d'élite et de chasseurs partaient de Trieste. Ils payaient combien pour une vie? L'article dit autour de 100 000 euros par jour. L'espion affirme que les renseignements italiens auraient répondu 2 ou 3 mois plus tard. Le safari partait bien de Trieste, cela ne se reproduira plus, fermez le rideau. Les services de renseignement bosniaques n'ont reçu aucune information supplémentaire concernant la répétition de ce safari à Sarajevo. Nous n'avons pas obtenu le nom des chasseurs ni des organisateurs auprès du SISMI. Nous ignorons si des arrestations ont eu lieu, dit l'ancien agent bosniaque. Le dossier serait actuellement classifié dans les archives bosniaques. À Milan, les documents fournis par Ezio Gavazzini sont également archivés. Mais avec la médiatisation de l'affaire, les langues pourraient se délier. Un témoin italien affirme avoir entendu son ancien supérieur au travail parler de ce safari humain. La chasse aux chasseurs ne fait que commencer. Ouais. Oui, vous avez raison, je pense que le Parisien fait l'erreur entre bosniaque et bosnien. Voilà. Bosnien, si ça parle de nationalité du pays dans sa totalité, bosniaque, si ça parle de l'ethnie bosniaque. Je pense que le Parisien se trompe un petit peu là. Voilà. J'ai presque envie d'aller voir l'Humanité en fait d'hier, là. L'article dont je vous parlais, que je ne vous ai pas mis de côté, qui est plus court, mais avec d'autres infos. Alors, je vais vous le chercher. Ça, c'est le MAD d'hier. Et moi, ce que je fais, c'est que voilà, quand il n'y a qu'un seul journal qui parle, j'essaie de trouver d'autres sources. C'est comme le Parisien en parlait. Donc, ça, c'est le MAD d'hier. C'est un tout petit article, vous allez voir. Je vais vous le retrouver en 2-2. Ah, c'est celui-là. Ouais, il n'est pas si petit en fait. Tourisme de guerre. Des snipers du week-end à Sarajevo. Les procureurs de Milan cherchent à identifier les ressortissants italiens qui auraient participé au massacre de citoyens bosniens durant le siège de la capitale de 92 à 95. Voilà. Donc, quelles sont les infos qu'il y a dans l'article de l'UMA qui n'y a éventuellement pas dans le Parisien? C'est ça qui nous intéresse ce matin. Donc déjà, effectivement, l'UMA parle de citoyens bosniens. Ces snipers du week-end, écrit l'UMA, pour la plupart d'extrême droite, auraient, on laisse au conditionnel bien sûr, auraient ainsi versé des sommes colossales pour se mêler aux tireurs embusqués et ont participé au massacre perpétré par l'armée de Radovan Karadzic. Les procureurs milanais ont lancé cette enquête dans le but d'identifier les Italiens impliqués. Accusés donc d'homicide volontaire aggravé par la cruauté des motifs abjects. Ce tourisme de guerre qui concernerait conditionnel, également des citoyens allemands, français, anglais. Comment l'UMA sait-il qu'il s'agit des membres de l'extrême droite? Le Parisien dit la même chose. Je pense que c'est source enquête. Hein, ce sont l'enquête qui se base sur notamment certaines accusations d'un ancien agent secret de la région. C'est pas l'UMA qui dit ça. Le Parisien dit la même chose. La Repubblica italienne dit la même chose. Allemand, français, anglais, russe, canadien, américain. Après que la Bosnie-Herzégovine, à l'époque, eut déclaré son indépendance de la Yougoslavie. Voilà. Selon l'écrivain milanais qui a relancé l'enquête en Italie, il n'y avait aucune motivation politique ou religieuse. C'était des gens riches qui allaient pour s'amuser et pour leur satisfaction personnelle. Nous parlons de personnes qui aiment les armes à feu et qui vont peut-être au stand de tir ou en safari en Afrique. C'est depuis la ville italienne de Trieste, proche de la frontière slovène, que les Italiens se rassemblaient avant de se rendre à Belgrade pour être récupérés par les soldats serbes de Bosnie. Il y avait un trafic de touristes de guerre qui se rendaient là-bas pour tirer sur des gens, explique donc l'écrivain italien Ezio Gavazzini, cité déjà par le Parisien tout à l'heure. Certains de ces touristes, il y a des guillemets, hein, appâtés par le sang auraient été identifiés doivent être interrogés par la justice. Donc ça, c'est intéressant parce que certains ne veulent pas y croire à cette histoire et je vous comprends. C'est tellement monstrueux que je suis comme vous, je voudrais ne pas y croire. Mais il y a une enquête qui est lancée en Italie. Ils ont identifié des gens. Ces gens, a priori, vont être interrogés. C'est ce que nous dit l'humanité, quoi. On verra dans les prochaines semaines ce qui se passe. L'écrivain italien ajoute: J'appelle cela de l'indifférence face au mal. Certains de ces touristes appâtés par le sang auraient été identifiés, doivent être interrogés par la justice. Toutes les cibles n'avaient pas le même prix. Les enfants coûtaient plus cher. Puis les hommes, de préférence en uniforme et armés. Les femmes. Et enfin, les personnes âgées qui pouvaient être tuées gratuitement. L'organisation de ces exécutions meurtrières, grâce au concours de l'ancienne compagnie aérienne Avionex, laisse à penser que les services de sécurité serbes étaient derrière tout cela. Voilà. Bon, je suis d'accord avec certains. Nous voulons espérer que c'est faux, que c'est une légende urbaine, que ça n'a pas existé. Comment dire, pour espérer encore un tout petit peu dans l'humanité, ou dans et se dire que l'homme n'est pas tout à fait un animal, nous voulons espérer, nous voulons croire que ça n'est pas arrivé. Il y a une enquête en Italie, de la justice italienne, on va voir. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Moi, je peux vous faire une promesse, par contre, c'est que je vais suivre cette actualité. Voilà. C'est fou, hein? Samuel, quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Bien sûr que si, bien sûr que si. Le travail de la justice, le travail des médias, parfois, sur une rumeur, aboutit à la conclusion que cette rumeur, elle a été inventée. Parfois, c'est une manipulation. Par exemple, la question est posée par le Parisien. À l'époque, du côté serbe, on a dit non, c'est une légende urbaine, c'est quelque chose qui a été inventé pour nuire à notre image, si tu veux, tu vois. Donc. La rigueur intellectuelle implique que c'est pas parce que des gens affirment que ça s'est passé que ça s'est passé. Hein, il faut toujours des, il faut, en matière judiciaire, mais aussi dans une démarche d'information, il faut des preuves. Voilà, des preuves formelles. Je veux espérer que ça n'est pas possible. Au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit que c'est possible. Que quand on voit l'état du monde, et le comportement de certains humains depuis que l'humanité existe, hélas, nous savons tous que c'est du domaine du possible. Hélas. Donc, on va suivre ça. Alors après, tu vois, il y a se dire que c'est du domaine du possible et dire que ça s'est passé. Totorino écrit par exemple: avec tout ce qu'on voit dans le monde, c'est sûr que ça s'est passé. Parce qu'en fait, c'est ce pas-là qu'il faut pas franchir. Parce que si, avec, il faut mettre de la rigueur dans tout ça. L'actualité, ce n'est pas un pari, ce n'est pas un sentiment. C'est pas dire: ah, mais moi, je pense que je suis sûr que ça s'est passé, alors que tu n'as aucune preuve que ça s'est passé. Il faut juste. Si ça s'est passé, il faut que la justice puisse le démontrer. Régulièrement, il y a des gens qui sont accusés de choses à tort, hein. L'histoire judiciaire dans tous les pays est faite de gens accusés aussi à tort. Alors, en plus, à une époque qui est la nôtre avec les réseaux sociaux et les amplifications de les caisses de résonance que sont ces réseaux sociaux. On est rentré dans une époque où de plus en plus on va devoir lutter contre des fake news, contre des informations qui sont fausses ou involontairement par manque de rigueur ou fausses délibérément pour nous influencer, pour nous induire en erreur sur l'état de sur plein de choses. Donc en fait, nous devons en permanence être en vigilance par rapport à toutes les informations et ne pas s'enflammer. Dès que quelqu'un dit que quelque chose s'est passé. Vous comprenez, c'est ça la démarche qu'on doit avoir au quotidien. On en reparlera, on en reparlera. OK? Donc là, on est sur l'humanité. On revient maintenant à Gaza. Deuxième actualité aujourd'hui. Gaza. Sommaire, let's go. On est à 49 minutes. Ok. Gaza, les obstacles au plan de paix. Ok. Je vous mets ça. Hop. Gaza, les obstacles au plan de paix. C'est le plan de paix dit Trump, hein, qui a abouti à un cessez-le-feu imparfait. Imparfait. Mais cessez-le-feu quand même. Le problème, c'est la suite. Et la suite, ça semble un peu mal parti. On va en parler tout de suite. Je vous mets juste le titre bien. Voilà. Tac. Et hop. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore moi? Oh, excusez-moi. Je reviens en arrière. Les obstacles au plan de paix. C'est Gaza. Je vous ai mis Gaza ou pas? Ah ben non, il manque Gaza. Sinon, ça marche pas. Voilà. Gaza. Ah, OBS, c'est pas top pour ça. Voilà. On va faire mieux bientôt. On fera des overlays un peu plus chic là, mais j'ai pas eu le temps de me pencher dessus encore. Voilà. Ok, là c'est bon. Tac. Ici c'est bon aussi. Voilà. Et TikTok, je vous mets la flèche et on y est. Deuxième sujet, donc, que je voulais aborder avec vous dans l'après-midi. Étienne, exceptionnellement. Gaza, obstacle au plan de paix. Hop. Voilà, on y est. Gaza, les multiples obstacles au plan Trump, c'est la une du Monde, hein, dernière édition du Monde qui est sortie cet après-midi. La deuxième phase du plan de paix, la première c'était le cessez-le-feu. Alors cessez-le-feu, il a été moyennement respecté, mais grosso modo, il y a eu cessez-le-feu quoi. Bon. La deuxième phase du plan de paix, censée s'ouvrir au moment où le dernier corps d'otages israélien sera rendu, suscite bien des doutes. Bon ça, les doutes, ils sont là depuis un moment, mais là, on voit bien que c'est compliqué. Le désarmement du Hamas, en est une première difficulté. Le Hamas a toujours dit qu'il n'allait pas se laisser faire pour être désarmé. Son ampleur fait d'autant plus débat que les engagements de départ étaient peu précis. La nature de la force internationale de stabilisation semble elle aussi imprécise. Des solutions moins ambitieuses pour cette force de stabilisation pourraient finalement être envisagées. La question de la gouvernance de la bande de Gaza, qui pour gouverner Gaza, n'est pas réglée non plus. Le plan initial est d'autant plus fragile qu'il a été imaginé sans les Palestiniens. Enfin, la livraison d'aide humanitaire à Gaza fait toujours l'objet d'importantes restrictions de la part de l'État hébreu. Voilà. Lisons cet article. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu d'article de fond sur ce qui se passe à Gaza. À ne pas oublier ces actualités. Et je félicitations d'ailleurs à tous les streamers, à toutes les streameuses mobilisées en ce moment même au Stream for Humanity pour plusieurs ONG, associations visant à œuvrer en France, mais aussi à l'étranger, et notamment, vous le savez, à Gaza. Bravo à eux et n'hésitez pas à les suivre tout le week-end. Avec la remise à Israël jeudi 13 novembre, donc ça c'est il y a 2 jours, du corps de Meni Godar, 73 ans, habitant l'un des kibboutz attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023, il ne reste désormais plus que 3 dépouilles mortelles d'otages revenus à Gaza. Donc 3 corps d'otages morts. La première phase du plan de paix, donc il y a eu donc les otages, vivants ou morts, à trois corps près, ont été remis à Israël. Cette étape-là, au final, s'est réalisée. La première phase du plan de paix porté par Trump, qui prévoyait également la libération des 20 derniers otages vivants, un cessez-le-feu. Celui-ci s'est appliqué, même s'il a été violé aussi, mais bon, il s'est grosso modo appliqué. Grosso modo, hein. Le retrait partiel des troupes israéliennes, bon là, ça c'est pas terrible non plus. La remise de prisonniers et de corps palestiniens est ainsi pratiquement terminée. La deuxième phase du plan de paix, c'est ce qui nous intéresse cet après-midi. Censé s'ouvrir au moment où le dernier corps sera rendu, concentre désormais toutes les interrogations et beaucoup de doutes. Vous avez compris que la première phase, bon an, mal an, s'était faite, pas de façon formidable, mais de façon, vu les tensions dans la région, qui aurait pu penser que ça allait bien se passer? On passe à la deuxième phase. Malgré des violations du cessez-le-feu, ben voilà, je les évoquais à l'instant, qui ont fait 3 morts dans l'armée israélienne et plus de 240 morts côté palestinien, les deux parties ont globalement respecté le cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur le 10 octobre. Okay. Mais elles continuent de s'opposer sur des aspects clés du plan dont le contenu fait l'objet d'un projet de résolution défendu par les Américains devant l'ONU, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Premier point compliqué. Je m'hydrate. Le désarmement du Hamas représente la première difficulté majeure. Le plan initial était resté flou pour permettre de sécuriser le cessez-le-feu et la libération des otages dans un délai resserré. Ok. Si, si, j'ai vu l'info. Il est en stream, il n'a pas vu l'info. Mais oui, on ne sait pas si c'est une vraie ou une fausse alerte. Bah, c'est bien pour ça. Depuis tout à l'heure, les accros à l'actu me disent « Mais ça va, il faut que tu arrêtes de parler de Gaza, il faut que tu arrêtes de parler des safaris humains. Il y a une alerte à la bombe à la BFM. » Oui, ben oui, je sais lire. Enfin, je vous ai lu depuis tout à l'heure. Hein, on n'est pas sur une chaîne d'infos en continu ici à vous faire croire que le monde va s'écrouler seconde après seconde et qu'une info chasse l'autre. Donc j'ai vu, mais comme le disait à l'instant, je sais plus qui, bah oui, bah on va voir si c'est une vraie ou une fausse alerte hein, avant de tout casser et de vous faire un breaking news à la CNews là. Hein. Donc attendons. Et si à un moment c'est une vraie alerte à la bombe, si un vrai souci, bah, on va en parler. On va en parler. Donc, mais vous êtes pas sur une chaîne d'infos en continu ici, hein, qui va vous faire tenir des heures durant pour augmenter le temps d'écoute, hein, c'est un grand classique, qui va faire tenir des heures durant sur une chaîne d'infos hein, pour vous faire croire qu'il se passe des choses incroyables et pour 3 heures, on va dire oh, finalement, il n'y a rien. C'est un grand classique. Donc, on va suivre ça, et puis si c'est quelque chose de grave, par contre, on va en parler. Parce que s'il y a une menace d'attaque à la bombe contre un média français, quel qu'il soit, on en parlera ici, bien sûr. Mais on attend que cette information soit confirmée, quoi. Sinon, c'est pas une info. C'est juste un petit buzz qui va provoquer de l'audience pour ceux qui vont en parler, quoi. Donc moi, j'en parle pas. Tant que c'est pas avéré. Bien sûr. Et là, on en parlera, parce que ce sera plus du buzz, ce sera une info. Donc, désarmement du Hamas, tout d'abord, qui représente la première difficulté majeure. Le plan initial est resté flou. Faites attention à votre consommation des chaînes d'infos en continu. Franchement, c'est bien les chaînes d'infos en continu. C'est plus d'infos. C'est très bien. Avant, il n'y en avait pas. Moi, j'ai connu une époque où il n'y avait pas de chaînes d'infos en continu. Voilà. Bon, après, il y en a eu une. C'était LCI, la première en France, sur le modèle de CNN aux États-Unis. Après, il y a eu, je ne sais plus qui y a eu. En deux, ça a été BFM. Non. Non, ITélé, peut-être. Non, ITélé. L'ancienne CNews. France Info. Non. 1. LCI. 2. ITL qui est devenu CNews. 3. BFM qui était censé être une chaîne d'info économique. Bon, finalement, ils n'ont pas respecté leur cahier des charges, peu importe. Et 4. France Info. Et franchement, bon, c'est très bien. Hein, mais le problème, c'est que ces chaînes d'info, pour exister, elles doivent vous faire croire qu'il se passe des dingueries tout le temps. Sinon, vous ne regardez pas. Hein, et vous ne regardez pas tous les jours et vous ne regardez pas pendant des heures. Et donc, il y a une dramatisation de l'actualité par les chaînes d'info en continu. À des degrés différents selon les chaînes, qui, à mon avis, cette dramatisation, c'est pas une bonne chose. Quelque part, c'est une manipulation de l'info. Genre, parfois, on essaie de vous faire croire qu'il se passe des choses, il se passe rien. Parfois, on va trop vite. On vous raconte des choses très très vite, sans trop vérifier. Et puis, une heure après, on vous raconte l'inverse, on s'excuse même pas, c'est pas très très grave. Sauf que vous avez peut-être pas vu le démenti, vous avez juste eu la première info, et donc vous avez capté une info qui était n'importe quoi. Je n'invente pas, j'ai vu des chaînes qui littéralement à 7h le matin disaient un truc, à 8h l'inverse, zéro excuse, c'est pas grave, hein. Ça fait deux infos. Hein. La première info elle est fausse, la deuxième on sait pas trop d'ailleurs, mais ça en fait deux. Et ça fait de l'audience. Voilà. Donc il y a une dramatisation de l'info, voilà. Donc je trouve pas ça fou. Donc attention à votre consommation des chaînes d'info en continu. Lisez la presse plutôt, tranquillou, au moment où vous voulez, ne vous laissez pas imposer l'actualité. C'est extrêmement anxiogène quoi. Extrêmement anxiogène. Continuons, pardon, j'ai fait une petite parenthèse. Donc, le désarmement du Hamas, première difficulté majeure, le plan initial était resté flou pour permettre de sécuriser le cessez-le-feu et la libération des otages dans un délai resserré. Okay. Il y aura un processus de démilitarisation de Gaza sous la supervision d'observateurs indépendants, avait annoncé la Maison-Blanche en précisant que les infrastructures du Hamas, les tunnels, les centres de production d'armes devaient être détruits. Depuis, le mouvement palestinien a repris le contrôle de l'ordre public, procédant par ailleurs à des exécutions sommaires de collaborateurs supposés d'Israël. Ouais. L'ampleur, la nature du désarmement du Hamas font d'autant plus débat que les engagements de départ étaient peu précis. Le Premier ministre israélien Netanyahou parle d'un désarmement total du Hamas. Qu'est-ce qu'il raconte le spécialiste là? Elle est longue la phrase. Voilà. Mais certains disent peut-être que un engagement du Hamas à abandonner uniquement ses armes offensives, roquettes et drones, pourrait suffire en lui laissant ses armes défensives, fusils et pistolets. Donc, quel désarmement du Hamas? L'organisation à l'origine de l'attaque terroriste du 7 octobre ne disposerait plus d'armes offensives en quantité importante. Camillette, je rappelle que Trump avait signé un plan de paix pour Gaza. Alors Camillette, nous sommes en train de parler de ce plan. Le seul plan qui existe pour Gaza, c'est celui-là, c'est celui dont on parle. Camillette, je rappelle les épisodes précédents, le plan pour Gaza, il n'y en a qu'un, c'est celui-là, c'est celui dont on parle. C'est pas que Trump a signé un plan de paix, nous parlons de ce plan de paix. Là, ici. On continue. Après, on peut avoir arrêté quelques épisodes, hein, c'est pas grave. L'organisation, donc le Hamas, ne disposerait plus d'armes offensives en quantité importante. Voilà. Ils n'ont pas la capacité de faire de la contrebande depuis l'Égypte. T'inquiète, Camille, tu peux pas être là tous les jours. Ils ont perdu la majeure partie de leur capacité de production à l'intérieur de la bande de Gaza. Sont-ils capables de recruter de nouveaux combattants? Oui, lentement. Merci, merci, j'ai perdu un pari. Merci, Evaz. Merci, Custy. Mais le fait qu'ils aient des jeunes armés de Kalachnikov est un problème, mais pas le problème principal, dit un ancien conseiller national à la sécurité israélienne. L'enjeu est donc plutôt d'empêcher une reconstitution des stocks d'armes, insiste le militaire, c'est un militaire israélien. Hein. La grande question est de savoir ce qui se passera si les efforts diplomatiques échouent. Du point de vue israélien, la réponse est claire. Nous devons envoyer l'armée dans la zone contrôlée par le Hamas pour détruire les vestiges de l'organisation et tuer plus de membres du Hamas. Dans ce contexte, vous voyez les tensions, quoi, à l'œuvre. La nature de la force internationale de stabilisation, prévue également dans le plan de paix de Trump en 10 points, je crois, il y avait 10 points. Cette force d'interposition, elle est très imprécise. L'hypothèse d'une force composée de milliers d'hommes positionnée au milieu de ce qui reste du Hamas, d'une nouvelle police palestinienne et de l'armée israélienne semble périlleuse. Vous imaginez le truc? Vous imaginez une force internationale armée au milieu d'hommes du Hamas armés, de la nouvelle police éventuellement palestinienne et de l'armée israélienne? Vous imaginez le truc? Merci vieille belette. Vous imaginez le truc? Ouf. Qui va vouloir aller dans ce truc, quoi? Voilà, le bordel, comme dit Alastair. Je vous lis, je vous lis, je vous lis. La poudrière, Wallart, exactement. Quatre acteurs armés opérant simultanément dans un environnement urbain dense créent un risque intolérable, note un chercheur palestinien. Directeur d'un centre d'études sur l'opinion publique à Ramallah. Aucune force arabe ou internationale crédible n'acceptera de désarmer le Hamas dans un conflit ouvert, dans ces conditions. Les États insisteront sur le retrait total d'Israël, un mandat clair, une mission limitée dans le temps, des règles d'engagement, la couverture politique d'une autorité palestinienne légitime. Comme le dit Alastair, il suffit qu'un acteur armé dérape et c'est le drame. Toto Reynaud, t'en as pas marre de faire du hors-sujet et de parler de l'extrême droite européenne, là? Tu veux pas plutôt parler du Hamas, là, avec nous, là? On essaie de partager un truc, là. Tu veux pas? Ce serait cool, en vrai. Pour la cohérence du chat, c'est un travail collectif qu'on fait ici, quoi. C'est pas chaque... Oui, ok, je parlais dans le chat, oui, mais le chat, c'est un endroit où on partage... un échange sur l'actualité qu'on est en train d'évoquer. C'est pas chacun fait son édito dans son coin, quoi. Merci Popovino. Sinon, c'est un enfer, en fait. C'est illisible. Les gens, quand ils écoutent un live, ils écoutent le live, ils regardent le chat aussi. Tu crées de la production éditoriale. Donc, faut essayer de respecter un petit peu ce cadre. Sinon, merci Totorino, tu regardes. Merci Romanx. Merci à toi. La participation d'autres États musulmans est envisagée dans cette force d'interposition. Voilà, notamment celle de l'Indonésie et de l'Azerbaïdjan. T'inquiète, Autorino, t'inquiète. La Turquie, qui a joué un rôle décisif au moment de la conclusion de l'accord, c'est vrai, fait l'objet d'un veto israélien en raison de sa proximité avec le Hamas et ses ambitions régionales. Mais des compromis sont aussi possibles sur la nature de cette force internationale pour permettre à Trump d'afficher quand même une avancée. Donc on est en train de voir que la définition de cette force internationale d'interposition là, pour que la paix puisse s'installer un petit peu. C'est dans l'autre chat en cas, j'ai deux chats, j'ai TikTok et j'ai Twitch. Est compliqué, et donc peut-être que ce serait, comme le dit Le Monde, une force d'interposition un peu moins ambitieuse. Voilà. Une thèse développée par Michael Milstein, nous allons sans doute nous rendre compte que nous ne parlons pas de milliers ou de dizaines de milliers de soldats venus du monde entier, mais plutôt de conseillers, d'inspecteurs, d'observateurs, pas vraiment de troupes au sol. Ouais. Force d'interposition, ce serait peut-être pas ce qui a été imaginé. Merci Bruno, merci Sixtine, merci Romainx, vous êtes formidable. L'inquiétude porte aussi sur le retrait des troupes israéliennes, qui occupent toujours 53% de l'enclave. Donc le retrait de l'armée israélienne de Gaza, on n'y est pas. Hein. Divisé en deux par une limite jaune dont le franchissement est interdit aux Palestiniens sous peine de mort immédiate. Depuis le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit sa politique de destruction massive dans la zone sous son contrôle. L'armée israélienne contrôle encore 53% de Gaza. Hein. Plus de 1500 bâtiments auraient été rasés depuis le 10 octobre. C'est des données satellites exploitées par la BBC. Une partie des observateurs craignent que cette situation ne s'éternise. Cela reviendrait à diviser Gaza entre une zone modèle soutenue par la communauté internationale et l'enclave désespérée contrôlée par le Hamas. Les États-Unis envisagent de commencer la reconstruction parce qu'il y a aussi un défi incroyable de reconstruction. La bande de Gaza est détruite à, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais 80-85%, c'est énorme. Uniquement dans la zone sous contrôle israélien. Un scénario qui a provoqué des réactions négatives parmi les États arabes, les factions palestiniennes, mais aussi au sein même de l'État hébreu. Israël doit s'opposer à la partition de facto de la bande de Gaza le long de la ligne jaune, dit un professeur en sciences politiques qui s'appelle Hillel Frisch. Une partition de la bande de Gaza en deux entraînerait une guerre de faible intensité, accompagnée du réarmement du Hamas de son côté et du renforcement d'autres factions, ce qui aboutirait à un affrontement encore plus vaste et plus sanglant dans lequel Israël serait contraint de conquérir Gaza à un coût encore plus élevé. Non, la Riviera, c'est oublié, Akila. C'était avant ça. Le problème du Proche-Orient, c'est que le truc dure depuis des décennies, mais si tu rates une semaine d'information, ça va tellement, il y a tellement de choses. Donc, désarmement du Hamas, retrait d'Israël, question de la force internationale d'interposition, question de la future gouvernance de la bande de Gaza, pas réglée non plus. Israël a mis en avant de nombreuses reprises son refus d'un pouvoir où siégeraient des représentants du Hamas et de l'autorité palestinienne. L'hypothèse d'un gouvernement technocratique est régulièrement avancée, mais sa légitimité pose problème. Donc, des Palestiniens qui n'auraient pas d'engagement ni côté autorité palestinienne, ni Hamas, voilà. Mais quelle légitimité de ces technocrates, de ces hauts fonctionnaires, de ces spécialistes palestiniens, c'est la question. En arrière-plan, transparaît toute la fragilité d'un plan imaginé sans les Palestiniens. C'est l'une des faiblesses de ce plan. C'est les discussions ont lieu sans représentants palestiniens. Le plan Trump, s'il permet une cessation des hostilités à court terme, ça c'est à peu près OK. À peu près OK. Technocratique, Golden Boy, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans les médias par opposition bizarrement, à politique. C'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup parlé d'une solution à notre crise politique qui serait de nommer un gouvernement technocratique avec des hommes et des femmes qui ne seraient à aucun moment des politiques, qui n'auraient aucun passé politique, aucun engagement politique, des hauts fonctionnaires, des spécialistes de tel ou tel sujet. Voilà. À mon avis, c'est une espèce d'énorme mensonge puisque enfin, y a les gens qui ne sont, comment dire, qui n'ont pas de couleur politique, ça n'existe pas. Il y a des gens qui n'ont pas de parcours politique, qui n'ont pas de mandat politique, qui n'ont pas d'engagement politique. Mais si tu grattes un petit peu, si tu leur demandes leur avis sur tel ou tel sujet, ben, ils vont avoir une conscience politique comme tout le monde. Voilà. Donc technocratique, c'est ça, quoi. De technocrate. Parce qu'à une époque, l'idée, c'était de former des gouvernements uniquement avec des hauts fonctionnaires, des technocrates ou des spécialistes, voilà, sans parcours politique clair, quoi. Voilà. Bon, pour certains, c'est la solution. Moi, je pense que c'est surtout un bon gros mirage, quoi. Le plan Trump, s'il permet une cessation des hostilités à court terme, ça c'est à peu près OK, ne résout pas les dynamiques politiques fondamentales qui alimentent le conflit depuis longtemps. Hein. Les journalistes du service public se revendiquent bien sans couleur politique. Non, bah, bien sûr, c'est un mensonge. Comme tout journaliste d'ailleurs. Les journalistes qui disent qu'ils n'ont pas de couleur politique, ils vous mentent et ils se mentent. Ils peuvent prétendre à l'honnêteté, à la rigueur dans leur travail, oui, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ont forcément des filtres conscients ou inconscients. C'est mieux qu'ils en soient conscients. Chaque média, d'ailleurs, essaie de vous dire qu'il est, c'est quoi le terme magique? Objectif. Hein. Ce qui est bien, c'est que chaque média, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa sensibilité, vous dit qu'il est objectif, qu'il est neutre. Hein, qui rapportent que des infos, qui sont des infos, qui ne sont pas des infos subjectives. C'est marrant parce que pourtant, tous les médias ne disent pas la même chose. Hein, si vous regardez CNews, si vous regardez France Info ou LCI ou BFM, sur la même information, vous allez avoir des informations qui sont différentes. Ça ne parle pas des mêmes sujets, ça ne parle pas de la même façon. Voilà. Et pourtant, tous ces médias nous disent qu'ils sont objectifs, impartiaux, apolitiques. Bon, c'est faux, hein. C'est un turbo-pipeau, ça. Chaque rédaction est composée d'hommes et de femmes, de journalistes qui ont leur propre filtre. Voilà. Et c'est à vous, en tant que citoyen, de vous rendre compte que chaque média, même s'il vous dit le contraire, quelque part, consciemment ou inconsciemment, oriente un peu les infos. Voilà. Donc c'est à vous d'être prudent par rapport à ça, et puis surtout de vous informer auprès de différents médias, de ne pas vous informer dans une bulle informationnelle avec le même média qui vous... Toujours poursuivre les infos, parce que finalement, vous allez vous rendre prisonnier, vous, de ce média, qui va évidemment vous affirmer que lui vous dit la vérité et pas les autres, mais c'est très dangereux de s'informer là-dedans, quoi. Voilà. Le travail que je fais ici est éminemment subjectif. Je choisis les thèmes dont je vous parle, je choisis les sujets dont je vous parle, selon mes filtres, conscients ou inconscients. Je mets en avant certaines informations et pas d'autres. C'est un travail subjectif totalement assumé. J'essaye d'être honnête dans ma démarche et le plus objectif possible, mais évidemment, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Ça, c'est totalement assumé. Donc voilà, donc pour résumer, c'est le bordel. Voilà. Mais bon, dans cet article du Monde, qui nous dit que y a beaucoup d'obstacles à ce plan de paix Trump. Les gens qui suivent ce sujet le savent depuis des semaines, ça. La question, c'est est-ce que la mobilisation de chacun, l'investissement de la communauté internationale, des États-Unis, des pays européens, des pays arabes, des grandes puissances, des acteurs directement impliqués dans ce conflit, Israël et la Palestine, les Palestiniens, est-ce que les efforts des partisans de la paix, parce qu'il y en a toujours eu, de même qu'il y a toujours eu des partisans de la guerre dans la région. Est-ce que ces efforts d'aujourd'hui vont réussir quand même à avancer malgré toutes les difficultés? Alors les gens qui disent on n'y arrivera jamais, j'entends ce discours, je le comprends, on a l'impression que c'est tellement bloqué depuis toujours. Mais ouais, on peut aussi former ce vœu qu'à un moment, il se passe des choses, quoi. Il y a une époque où au Proche-Orient, on a parlé de processus de paix. Ouais, mais les partisans de la guerre... ont été plus forts. Je vous lis. Samuel, là où j'étais choqué, c'est même que sur France Info, leur ligne éditoriale est orientée, on n'a pas le même traitement envers leur invité. Bah oui, ok, bien sûr. Mais à quel moment tu as pensé que cette ligne éditoriale est... Ça veut dire quoi, une... Vous vous rendez compte que vous, les Français, je veux dire, vous, les Français, vous avez tous des opinions différentes, des sensibilités différentes, hein, ces sensibilités se retrouvent d'ailleurs dans les élections. On voit qu'on a un pays qui est très partagé, qui est très divisé, qui est très polarisé de plus en plus. Ça crée beaucoup de violence dans le débat public. Et vous voudriez, c'est ça le discours, et vous voudriez qu'un service, qu'un média, parce qu'il fait partie d'un service public, donc financé par l'argent public, vous voudriez que ce média représente la subjectivité de tous les Français. Mais c'est impossible. Comment voulez-vous faire ça? Vous êtes tous divisés. Je rappelle le propos. L'information objective n'existe pas. Elle est toujours influencée d'une manière consciente ou inconsciente. Comment voulez-vous qu'un média représente la sensibilité de tous les Français, alors que les Français eux-mêmes sont ultra divisés en 3-4 gros blocs? C'est impossible. Moi, je préfère des médias qui vous disent clairement, bah voilà, nous, on est plutôt comme ça, quoi. Même dans les médias dits les plus neutres, il y a des journaux comme historiquement Le Parisien, toujours voulu être un journal un petit peu neutre et tout, mais quand vous lisez les articles, les éditos, c'est orienté malgré tout. Il y a toujours un truc. Je ne suis pas d'accord. Explique-moi comment un média de service public pourrait représenter la subjectivité, la sensibilité de tous les Français, c'est impossible. Les rédactions de service public, elles attirent des journalistes. Parce que c'est les journalistes qui choisissent. Hein. Parce que c'est les journalistes qui choisissent les rédactions qui le rejoignent. Hein. C'est pas une espèce de mercato bizarre où tel média dirait, bon, alors lui là-bas, je veux qu'il bosse pour moi. Lui, non, globalement, les journalistes, ils postulent à des rédactions où ils sentent plutôt, dans lesquelles ils sont plutôt à l'aise intellectuellement. Donc en fait, bon, bah, dans les rédactions, CNews, Europe 1. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer encore comme le Journal du Dimanche, l'Humanité, Libération, etc. Plein. Ben en fait, à un moment, normalement, sont composés de gens qui globalement ont envie de travailler ensemble, quoi. Donc à un moment, c'est là où la subjectivité finalement, elle s'additionne, elle s'empile, quoi. Est-ce que tu considères que l'AFP est objectif dans le choix des dépêches qu'ils font? Mais non, c'est un média. Je ne dis pas que ce n'est pas un travail de qualité, mais arrêtez, oubliez ce mot d'objectivité. En termes d'information, il ne veut rien dire. Je crois plus à la rigueur et à l'honnêteté du travail, on va dire. Objectivité en termes de médias, ça n'a aucun intérêt. Très poli, la façon de dire qui se ressemble, ça semble. Oui, c'est ça. Après, dans les rédactions, parfois, les gens sont pas d'accord. Dans toutes les rédactions où j'ai bossé, les gens n'étaient pas d'accord entre eux, quoi. Dans les rédactions, il y a des débats, vous vous rendez pas compte, il y a des débats parfois assez violents, parce qu'au sein même des rédactions, il y a des rédactions, on va dire, un peu connotées à droite, où il y a des dangereux gauchistes qui viennent bosser. Hein, et inversement, dans des rédactions plutôt, on va dire, qui ont une image de rédaction à gauche, parfois, il y a des gens qui sont un peu plus conservateurs, un peu plus réactionnaires. Il y a des, moi j'ai vu ça dans toutes les rédactions où j'ai travaillé, quoi. Donc il y a des débats intéressants. Donc ils se ressemblent, ça semble, oui, globalement, mais avec des petites exceptions, quoi. C'est toi le dangereux gauchiste? Oui, c'est moi. Après, ça implique de vous un effort pour vous rendre compte que ben, les médias, ils parlent d'un endroit. Ils parlent d'un endroit avec une grille de valeurs. Encore une fois, assumer ou pas assumer, afficher ou pas afficher, c'est à vous. Notre mission en tant que citoyen, c'est essayer de s'informer auprès de différents médias, pour pas s'enfermer dans des bulles informationnelles. Oui, alors parfois il y a un peu d'humour au palibinus quand je dis dangereux gauchiste. Moi, je suis un peu tout ça. Moi, je suis selon les sources, je suis quelqu'un qui favorise l'extrême droite en France, qui invite les représentants de l'extrême droite là où je travaille. Je suis aussi un dangereux gauchiste et ennemi damné de l'extrême droite. Je suis aussi un macroniste. Ça dépend de qui m'accuse. Je suis bien des choses. Voilà. Moi-même, je ne sais plus bien qui je suis. Voilà. Mais si tu lis Internet, je suis tout ça. Ça dépend du moment où tu lis Internet. Alors, selon X, selon Twitter, depuis hier, je suis un dangereux gauchiste parce que j'estime que le RN, c'est l'extrême droite, par exemple. Mais demain, je vais inviter quelqu'un sur ma chaîne Twitch, vous verrez, dans une semaine ou deux, et on dira que je suis, mark my words, on dira que je suis un dangereux soutien de l'extrême droite. Bon. Je me suis toujours dit que si j'étais accusé par tous les camps d'être du camp d'en face, c'est que globalement, je faisais plutôt bien mon boulot. Voilà. Mais vous verrez, aujourd'hui, la traîne depuis hier, allez voir sur X, vous tapez Samuel Etienne sur X, vous allez voir que je suis un dangereux gauchiste opposé au Rassemblement National. Et vous verrez, dans une semaine ou deux, je colle le truc, je serai au contraire un dangereux soutien de l'extrême droite. Vous allez le voir. Mark my words, on est le samedi 15 novembre 2025. Vous verrez. Dans une semaine ou deux, ouais. Donc à un moment, faut. Alors forcément, je ne suis pas les deux, hein. Mais c'est juste que les gens ont du mal à comprendre parfois, quoi. Après, X, c'est un délire, c'est polarisé jusqu'à l'absurde. Ouais, c'est très con surtout, ouais. Bon, voilà pour les multiples obstacles au plan Trump. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé à Marseille. Là. Encore une dinguerie. J'entends Nelio, parfois c'est fait. Nelio, j'entends. Tu vois, pardon, je lis le message de Nelio. Hein. Ok, pour l'absence d'objectivité, ça, parce que je trouve que c'est assez constructif. Tu vois, Nelio n'est pas tout à fait d'accord avec moi, mais je trouve que c'est exprimé de façon constructive, donc c'est assez agréable à lire. Ok, pour l'absence d'objectivité, ça, mais si on part du principe que le média du service public est subventionné, alors c'est pas le cas, subventionné, toi, tous les médias sont subventionnés, grosso modo, donc c'est pas le bon terme, mais tu peux dire financé par contre. Hein. Financé en grande partie par des gens qui sont pas sur sa ligne, alors subventionné en grande partie par des gens qui sont pas sur sa ligne, attention, le vote. RN, pour parler que de celui-là, il progresse en France, mais il n'est pas majoritaire. Sinon, il serait au pouvoir. Donc, en grande partie par des gens qui sont soignés, pas majoritairement, oui, mais il y a sûrement effectivement, aujourd'hui, le France Télévisions, par exemple, est subventionné non plus par la redevance qui était supprimée, mais par la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, et donc tout le monde la paye, la TVA, effectivement, et il y a forcément dans les gens qui payent la TVA en France, il y a les gens qui votent RN, pour prendre que cet exemple-là. Donc, je reprends ton propos qui est cohérent. Si on part du principe que le média du service public est financé en grande partie par des gens qui ne sont pas sur sa ligne, okay, n'y a-t-il pas un problème quand le dit média passe le plus clair de son temps à insulter, mépriser ces gens-là? Bah, parce que c'est fait avec plus ou moins de talent. Et je ne suis pas sûr qu'un travail d'information doive passer par le mépris ou l'insulte. Moi, je ne cache pas que je ne suis pas convaincu que le projet RN soit un bon projet pour la France. Je le pense depuis toujours. Il y a peu de chances que je change d'avis prochainement. Mais je n'ai pas de mépris. Ou de. Je sais pas quel mot que tu utilisais déjà. Parce que le mépris, ça nous emmène nulle part. Le mépris ou d'insulte. Je n'ai pas l'impression d'avoir du mépris ou d'insulter ces gens-là. C'est une chose de dire, écoutez les gars, je pense que vous êtes vraiment dans l'erreur. C'est absolument pas ce qu'il faut à notre pays. C'est une chose de le dire et c'est une chose de les mépriser. Moi, plutôt que de les mépriser, je préférerais plutôt les convaincre que c'est une erreur. Et tu peux pas convaincre quelqu'un si tu le méprises. Tu peux pas convaincre quelqu'un si tu l'insultes. Et ça vaut dans tous les sens. Et ça vaut dans tous les sens, et pas seulement dans celui-ci. C'est-à-dire que quand ton positionnement politique, c'est de mépriser l'autre et c'est de l'insulter, quelle est la réaction que tu provoques chez celui d'en face? Ouais, en fait, et c'est totalement naturel, c'est totalement humain. Une espèce de crispation, parce que c'est pas très agréable d'être insulté et méprisé. De crispation qui fait que la personne va rester dans son arc-bouté dans ses positions et va surtout pas avoir envie de parler avec toi. Or, moi, ce que j'essaie de faire ici, c'est plutôt de discuter, y compris avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, pour entendre leurs arguments d'abord, en me disant, tiens, est-ce que ces arguments me séduisent? Bah, pas trop, en vrai. Voilà, et puis en exprimant mes arguments, en me disant peut-être que ces arguments vont pouvoir éventuellement faire réfléchir certains, quoi. Mais si dans ce positionnement que je peux avoir sur certains sujets de société, par exemple, je peux avoir du mépris, les gens peuvent ressentir du mépris, c'est bien malgré moi. En tout cas, c'est pas ce que j'essaie de faire. Voilà. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Si faire de l'information, c'est insulter et mépriser les gens, c'est ni fait ni à faire, ouais. Il y a de plus en plus de crispation entre les camps de gauche, droite et extrême. Oui. C'est une réalité, bébé Colly. On le voit à l'Assemblée, donc ça n'est pas virtuel ce que tu dis, on le voit à l'Assemblée. Il y a une tension politique dans notre pays. Après, bon, en France, il y a toujours eu de la tension politique. Là, on la voit. Après, je pense que les réseaux sociaux participent aussi beaucoup de cette polarisation. Et je suis sûr que si on mettait tous les gens qui se chopent à la jugulaire tous les jours sur les réseaux sociaux, si on mettait ces gens IRL dans une vraie pièce, hein, je suis persuadé que ces gens mettraient beaucoup moins de violence dans leurs échanges. Hein. Le pseudonymat provoque plein de choses, quoi. Vous savez, il y a des vidéos sur Internet où on voit deux chiens qui se grognent, ils s'aboient dessus derrière une grille, hein, qui pourrait représenter le pseudonymat. Et au moment où tu enlèves la grille, il ne se passe rien, quoi. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est beaucoup ça, quoi. Tu vois, il y a Nelio avec qui on parlait là, qui nous dit j'entends, je suis parfaitement d'accord sur le fond, mais depuis des mois maintenant, d'un côté comme de l'autre, il n'y a plus de débat d'idées. Uniquement des caricatures, de l'exagération. Je le regrette comme toi, je suis tellement d'accord avec toi. Je ne suis pas naïf, c'est valable dans les deux camps, mais oui, à titre personnel, lorsque j'écoute les chaînes du service public, je me sens régulièrement insulté. Et je trouve ça un peu navrant. J'entends. J'entends. Mais non, des médias neutres. Mix me demande, mais tu connais des médias neutres? Tu pourrais m'enseigner des médias neutres? Ça n'existe pas, Mix, les médias neutres. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, en fait. Voilà. Bon, alors parlons de ce qui s'est passé à Marseille, pardon, pour la parenthèse. Mais merci beaucoup, ces échanges sont passionnants, en vrai. Crime d'avertissement à Marseille, c'est quoi cette histoire? Mehdi, donc. Petit frère d'Amine Kessassi, qui est un militant écologiste de 22 ans, engagé dans la lutte contre le narco-banditisme, a été assassiné par un commando à moto vendredi. Dinguerie encore, dit Mix. Ouais, dinguerie. Dinguerie. Point de bascule effrayant, changement de dimension. C'est avec un mélange d'effroi et de stupéfaction que Marseille a appris ce matin, vendredi matin, c'était donc hier, l'identité de la victime d'une exécution en règle. Aucune chance, hein, le gars. Par deux hommes à moto, la veille, en pleine journée, devant une pharmacie des quartiers nord de Marseille. Merci. 1h27, j'ai oublié de mettre le TC, mais merci beaucoup. Pardon. Ah oui, puis j'ai pas mis le. J'ai rien mis du tout, j'ai pas mis le. Ok. J'ai pas mis la petite flèche, rien qui va. Attends, je vous mets où on en est. Pardon, je vous mets là où on en est pour que les gens qui nous rejoignent sachent tout simplement où on en est de notre revue de presse. Et après, je reprends ma lecture. Ok, super. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Hop, pour plus de lisibilité, TikTok, je vous mets la flèche là où il faut. Ok. Il y aura peut-être un peu de gaming ce soir, j'ai bien envie de jouer à Valo ce soir. En pleine journée, devant une pharmacie. Aux alentours de 14h30, Mehdi, 20 ans, le petit frère d'Amine Kessassi, qui est un militant écologiste de 22 ans engagé dans la lutte contre le narco-banditisme, a été abattu, donc le petit frère Mehdi, 20 ans, de 4 balles dans le thorax, par un commando à moto activement recherché. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. En décembre 2020, cette famille de 6 enfants avait déjà été endeuillée, donc c'est une famille qui a déjà perdu un de ses membres, par l'assassinat de Brahim, dont le corps avait été retrouvé carbonisé dans un véhicule dans une affaire de triple assassinat. Depuis la mort insupportable de Sokena, étudiante foudroyée en 2023 dans sa chambre par une balle perdue de Kalachnikov, je ne sais pas si vous vous rappelez. Marseille, tristement habituée à la litanie des règlements de compte sur fond de guerre entre gangs, n'avait plus connu un tel sursaut de colère. Vous savez que Marseille, c'est la ville qui est la plus touchée par les règlements de compte, les morts sur fond de trafic de drogue. C'est pas la seule ville, attention, hein. Et là, il y en a de plus en plus. Mais Marseille, ils sont top 1 là-dessus, hélas, quoi. Mehdi Kessassi n'a pas été ciblé par hasard, il était inconnu des services de police et de justice, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de casier judiciaire, quoi. Il préparait même le concours de gardien de la paix, le jeune homme tué là. Il préparait même le concours de gardien de la paix. Mais surtout, il était le petit frère d'un récent candidat aux législatives pour le parti écologiste Fer de Lance à Marseille de l'opposition à l'emprise du narcotrafic sur les quartiers nord dont cette famille est originaire. Donc déjà, GG aux écologistes. J'apprends que les écologistes à Marseille sont le fer de lance de l'opposition à l'emprise du narcotrafic. Bravo à eux. Parce que c'est un sacré combat. Depuis la mort violente de son demi-frère Brahim, le jeune militant qui avait conservé de ce drame un sourire triste avait créé l'association Conscience qui fédérait des proches de victimes de cette terrible guerre des stupes marseillaises dont le nombre de morts se compte désormais par centaines. Militant insatiable, Amine Kessassi, donc ça c'est le grand frère, n'a cessé d'interpeller les autorités et de participer à toutes les marches blanches organisées par les familles, regrettant parfois le manque de mobilisation, mais expliquant qu'il faut continuer à travailler, à convaincre face à ce fléau. Militant qui s'était fait connaître en interpellant, du haut de ses 17 ans à l'époque, Emmanuel Macron lors d'une visite à Marseille en 2021. Depuis, il se dit que le jeune homme avait l'oreille du président, que ces deux-là se parlaient de temps en temps. En tuant son frère, son petit frère. Waouh ! Je vous laisse juger du message de Gamet78 dans le chat Twitch. À quoi ça lui sert de jouer les gros bras ? Toute la famille va tomber les uns après les autres, il n'arrête pas. Je vous laisse juger de ce message. Voilà. Gamet78 vient littéralement de nous dire « Arrêtons les gars de lutter contre le trafic de drogue. Arrêtons de lutter contre le narco-banditisme. Arrêtons de lutter contre les gens qui vendent de la merde aux jeunes et se tuent entre eux ou tuent des... Laissez faire hein ! C'est quoi ? Les jouets, t'appelles ça jouer au gros bras, toi ? Waouh ! Magnifique message. Non, c'est pas le courage qui t'étouffe, toi. Si je puis me permettre. En tuant son frère, les narcotrafiquants ont-ils voulu passer un avertissement aux militants ? C'est la piste privilégiée aujourd'hui par les enquêteurs. Donc, ça n'est pas sûr. Mais c'est une piste dite privilégiée par les enquêteurs. Le calibre choisi, 9 mm, hein, et le sang-froid du tueur qui est descendu de la moto pour abattre sa cible de 4 balles dans le thorax, après avoir laissé la mère de la victime entrer dans la pharmacie, indique qu'il s'agit d'un travail de pro. Comment une source sécuritaire ? C'est une exécution à message, selon les termes du procureur de la République de Marseille, qui a précisé que si le meurtre a été commis pour intimider Amine Kessassi, ce que l'enquête dira, il est évident qu'on a franchi un cap. Depuis quelques années, Marseille subissait surtout des narcomicides, néologisme inventé par la justice pour qualifier ces affrontements entre bandes rivales, vous connaissez, à coups de rafale aveugle de Kalachnikov. La victime n'était pas nécessairement la cible première, mais parfois un jeune guetteur ou un vendeur. On rafalait pour impressionner le clan adverse, voire terroriser la cité. Cette fois, la cible ne participe pas au trafic, c'est le proche d'une figure qui lutte contre. Et ça, c'est assez nouveau. Si ce meurtre par avertissement est avéré, il marque un risque de dérive à l'italienne. J'allais dire, ça ressemble de plus en plus à ce qui a pu se passer en Italie, où les groupes criminels s'attaquent à des symboles de la lutte contre le trafic, journalistes, magistrats, policiers. Salam à haut gradé de la police. Cette inquiétude des autorités doit être replacée dans le contexte des menaces qui ont pesé ces derniers mois sur les directeurs d'établissements pénitentiaires, les surveillants, certains magistrats ou même avocats. Oui, Col Rampage, je lui parle des cartels colombiens, oui, tu as raison. Des spécialistes de la criminalité organisée Marseille voient déjà dans l'exécution révoltante de Mehdi Kessassi la signature de la DZ Mafia, c'est comme ça qu'on dit, DZ Mafia ? Cette organisation criminelle marseillaise a la volonté hégémonique. Issu de la cité de la Paternelle dans le 14e arrondissement de la ville, ce groupe criminel s'est imposé après une guerre sanglante avec Yoda. Ce groupe criminel, un gang rival auquel appartenait Brahim, le demi-frère d'Amine Kessassi, tué en 2020. Le 2 octobre, le militant avait publié une lettre posthume à ce premier frère disparu, dans laquelle il s'en prenait directement aux trafiquants. Marseille essuie tes larmes, vivre et mourir en termes de narcotrafic. depuis un mois l'écologiste soutenu par tout le nouveau Front populaire, qui avait été battu d'un cheveu par une candidate du RN lors des dernières législatives, était sous protection policière. Des menaces précises avaient en effet été identifiées. Ce n'est pas une formule choc, c'est la réalité. La narcocratie s'installe jusque dans nos élections, avait alerté Camille Cessassi sur son compte X la semaine dernière. Depuis l'assassinat de son frère, de son petit frère, Marseille est horrifié, alors que le militant souhaite pour le moment garder le silence. Partout, les réactions de soutien, mais aussi de colère, se multiplient. Si l'hypothèse d'un assassinat d'avertissement destiné à décourager Amine de son engagement contre le narcotrafic qui gangrène notre ville était confirmée, nous serions devant un changement de dimension absolument terrifiant, a réagi le maire de Marseille, Benoît Payan. Une chose est sûre, le drame relance le débat sur la difficile et dangereuse lutte contre le narco-banditisme dans la deuxième ville de France. C'est sans doute un point de bascule effrayant qui doit faire prendre conscience du danger de cette mafia du narco-banditisme à l'ensemble de la société française, a tweeté le ministre de la Justice. Pour l'association Adelphi Cité, qui agit dans les quartiers dont Amine Kessassi est membre, c'est le symbole de l'espoir, de la résistance, de la parole libre qui est touchée. Je vous lis, pardon. Je vous lis. Je vous lis. Il y a Digisphère qui écrit ce qui est certain, c'est que le narcotrafic ne se trouvera jamais impacté par les mesures répressives qui sont constamment appliquées en France depuis 40 ans. Le bilan français est catastrophique alors que c'est l'un des pays européens les plus sévères en ce qui concerne les drogues. Oui, là où je suis d'accord avec toi, c'est que le tout répressif a montré ses limites. Et surtout, il y a sûrement une autre façon de lutter contre ça. Je pense que... Contrairement, alors je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'il faut mettre plus de moyens sécuritaires et de justice contre le narcotrafic en France. C'est pas moins de moyens, c'est plus. Et parallèlement, sans doute mettre en place une légalisation du cannabis pour bien distinguer ces deux marchés. Voilà. Une légalisation et même un passage sous régie d'État de la vente de cannabis encadré avec des taxes et de la rentrée d'argent qui irait justement financer l'augmentation de ces moyens de sécurité et de justice contre la lutte contre le vrai trafic de drogue. Voilà. Protection des consommateurs avec un cannabis contrôlé et vendu uniquement par une régie publique. Voilà. Taxation du produit. Et on met le paquet sur la pression sécuritaire et judiciaire sur les trafiquants de drogue. Après, il faudra faire une étude sur les résultats de la légalisation du cannabis dans d'autres pays pour voir si effectivement ça a marché, quel résultat ça a donné avant de se lancer là-dessus, quoi. Mais ça peut être une piste. Je crois comprendre que quand quelque chose d'illégal devient commun, vous voulez légaliser, c'est fou d'entendre ça. Alors, ok, je veux bien ne pas légaliser le cannabis, mais dans ce cas-là, j'interdis l'alcool. Et le tabac aussi. Tu vois que c'est pas forcément une solution, quoi. Les études existent. On a par exemple un excellent exemple avec les Portugais, me dit Digisphère, qui ont éradiqué les énormes problèmes de consommation d'héroïne en légalisant. Bon, bah ça m'intéresse. Bon, après, c'est pas nous, dans un petit stream sur Twitch, TikTok l'après-midi, qu'allons trouver une solution à ce problème-là. Mais en tout cas, le constat est que ce qui a été fait jusqu'ici ne marche pas, quoi. Et en tout cas, qu'on a aussi un défi d'une explosion du narcotrafic en France et d'une violence qui s'accroît en touchant y compris des villes moyennes qui jusqu'ici n'étaient pas touchées. Et donc, même pour ceux qui ne voudraient pas s'intéresser à ce problème de drogue, les conséquences en termes de sécurité de ce trafic de drogue sont telles sur la société française aujourd'hui qu'il faut absolument faire quelque chose. C'est là. Des défis dans notre pays, il y en a quelques-uns, hein. Mal logement, pour ne parler que de celui-là, il y en a d'autres. Mais c'est l'un des défis très importants qui se pose à notre société, quoi. Et ça nourrit aussi un sentiment d'anxiété très très fort d'une partie de plus en plus importante de la population, dans plein de villes et pas seulement dans ces grosses villes dont on parle. Et au final, si on ne fait rien, ça peut avoir des conséquences catastrophiques sur l'état d'esprit de la population et sur la traduction politique de cet état d'esprit que certains, bien sûr, vont vouloir utiliser. Alors, je cherche un mot un petit peu plus fort. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut s'occuper. Exploiter. Merci, Mister Prolurker. Tu lurques avec de la qualité. Guiguine dit, et pourquoi pas s'attaquer fortement aux consommateurs? C'est taper la consommation, forte répression. Il y a Blurinat qui dit, mais pourquoi pas faire un safari contre les narcotrafiquants? Je suis surpris par la consommation de cocaïne festive dans les villages ruraux du sud-ouest, me dit GG la poutre. Joli pseudo. Moi aussi, enfin, je sais, j'apprends par toi que ça consomme de façon festive de la coco dans les villages ruraux du sud-ouest. À un moment, ne pas comprendre que, pardon, hein, je peux faire mon vieux daron, vieux con, ne pas comprendre que ce produit, c'est de la merde pour vous, pour votre cerveau, pour votre santé, pour la société. Pour tous les effets que le trafic de cette substance produit dans notre pays, pardon, je vais être vraiment le vieux daron chiant là. À chaque rail de coke qui se sniffe en France, les gens qui font ça, vous nourrissez ce problème. Donc oui, il y a une co-responsabilité des consommateurs. Pardon, là, c'est vraiment le vieux qui parle, quoi. En tout cas, je trouve que j'ai. Alors là, pour le coup, je me mets un petit peu dans le camp des gens qui. Moi, j'aime plutôt chercher des motifs pour rassurer, moi, plutôt que d'inquiéter dans cette avalanche de mauvaises nouvelles dans l'actualité qu'il y a tous les jours. Mais là, pour le coup, je trouve que ce sujet est sous-exposé, sous-estimé. D'autant que si on s'en occupe pas, encore une fois, ça aura des conséquences sur l'état d'esprit des Français et les conséquences politiques de cette inquiétude montante. Ça peut avoir des effets dévastateurs sur notre société. Donc il serait temps de s'en occuper. Il serait temps de s'en occuper. Il y a Skyler Lemine qui dit « Mon ancien beau-père consommait de la coke, je vous assure, ça détruit les familles, on mangeait plus car il n'avait plus de sous. » Sam, il fait jamais une actu heureuse au moins. Ah, le petit Camus, j'essaye. Hein. J'essaye, mais bon. C'est pas le journal des bonnes nouvelles ici, quoi. C'est-à-dire, j'essaie de dire ce qui va pas bien dans notre société, dans notre pays et dans notre monde pour qu'au collectivement, on réfléchisse à tout ça pour peut-être essayer de se dire qu'il peut y avoir des solutions, quoi. Mais c'est vrai que je suis pas trop sur le journal des bisounours, quoi. Mais on essaye d'en parler de façon chill, quoi. Il y a Silent Horn qui dit: je suis d'accord qu'il faut essayer de comprendre aussi pourquoi les gens consomment. La révolution industrielle s'est traduite par une percée délirante de l'alcoolisme, notamment. Y a peut-être une responsabilité sociétale aussi dans tout ça. On enchaîne? Voilà. Triste affaire en tout cas. Je vais parler du foot. On va dire, ah, une bonne nouvelle. Non. Non, il y a des petites inquiétudes pour le prochain mondial aux États-Unis dont parle le Parisien ce matin. Pardon, je me suis un peu enrhumé, je renifle. Alors, le sommaire. Ah, j'entends ce que tu dis, addict de la nuit, mais. J'essaie de trouver une solution, tu vois. À un moment, le consommateur, il doit aussi penser aux conséquences de son geste, qu'on n'est pas tout seul, quoi. J'entends le fait que l'addiction est une maladie, me dit Addict de la nuit. J'entends ça. Mais je voudrais qu'on entende aussi que la consommation de drogue, en tout cas de certaines drogues, fait du mal à la personne, évidemment, mais aussi à toute la société, quoi. Donc là, à un moment, il faut en avoir conscience quand même. Alors, 1h46. On passe au football. 1h46. Ok. 1h46, ok, le mondial de tous les excès, c'est du foot. C'est pas le mondial de l'automobile. Hein. Ok, je vous mets ça dans le titre aussi. Ok, on est bien. D'accord, ok. Merci, Mister, pour ton message. Ok, je vous mets ça aussi. Dans le clip, dans le titre du stream. Ok, putain, j'arrête pas de me gratter le nez, je suis désolé, ça n'a aucun rapport avec le sujet précédent. C'est juste que j'ai très mal dormi. Je suis endormi, ça pique de partout. Ah, c'est désagréable le rhume. Et TikTok, je vous mets la flèche. J'ai chaud en plus là. Il fait chaud, il fait froid, le météo est super bizarre. Sommaire texte. Le mec, il est quand même. C'est marrant parce que le mec a subitement un comportement super bizarre. Il a chaud, il a froid, il a le nez qui pique, alors qu'on vient de. Alors qu'on vient de parler de consommation de drogue. Waouh! Je vais enlever ce switch, j'ai trop chaud. Je me mets de côté parce que vous allez voir tous les tatouages de Yakuza. Waouh, le mec vient de parler de trafic de drogue et maintenant il parle de Yakuza. Ok, ce mec est définitivement très louche. C'est fou ça. Ouais, je suis un peu enrhumé, un peu malade, je suis en ce moment. Plein de petits virus en ce moment. Alors, le mondial de football. Merci Zara Kiri, merci Ticlem, merci Romain, merci Bruno, merci Mante, monsieur René. Le mondial de tous les excès. C'était quoi, là? Le prochain mondial de foot 2026, là. Organisé du 11 juin au 19 juillet 2026, ça arrive très très fort. Dans trois pays d'Amérique du Nord, si je dis pas de bêtises, États-Unis, Canada, Mexique. Élargi pour la première fois à 48 équipes. Il va y avoir un nombre de matchs sur ce mondial. La Coupe du Monde s'annonce révolutionnaire, mais aussi énergivore. Puisque la FIFA fait rarement dans la demi-mesure. Quand il s'agit de dépoussiérer ces compétitions, l'instance a vu les choses en grand pour cette Coupe du Monde de foot 2026. Organisée du 11 juin au 19 juillet sur le continent américain, la 23e édition du tournoi ne ressemblera à aucune autre avec les 48 équipes engagées. 48 équipes engagées! 104 matchs au programme, 16 villes hôtes. Et pour la première fois, il y a 16 villes hôtes. Trois pays organisateurs, États-Unis, Canada et Mexique. Si ce mondial va casser les codes, il s'annonce surtout particulièrement énergivore. Alors moi, je pensais plutôt au déplacement en avion et tout le CO2, mais énergivore pour les joueurs, d'abord, qui sont confrontés à de très fortes températures et contraints de passer davantage de temps dans les avions que sur le terrain. Terminer le format traditionnel à 32 équipes, on passe à 48 équipes. Avant, il fallait 7 matchs pour espérer disputer la finale. Le passage à 48 pays décisé par la FIFA, hein, décision selon elle pour représenter plus équitablement les différentes régions du monde. J'en étais où? Bouscule l'organisation du tournoi avec l'instauration d'un 16e de finale après les poules. J'ai fini dispatch, Pepper Sir. Les sélections seront donc réparties en 12 groupes de 4 équipes. Les deux premières de chaque groupe seront automatiquement qualifiées pour les 16e. Les 8 meilleurs 3e de groupe accéderont au tour suivant, comprenant 32 équipes. Un nombre de matchs de fou. Cette nouvelle mouture qui alourdit encore le calendrier signifie que l'équipe sacrée championne du monde le 19 juillet 2026 à New York aura disputé 8 rencontres. Ce sera une première dans l'histoire de ce tournoi. À ce sujet, Didier Deschamps s'est voulu lucide, rappelant que c'est un nouveau format avec plus d'équipes, il y a pas mal de complications là-dedans, on va devoir accélérer la préparation avec le staff, blablabla, blablabla. Voilà. Il y a aussi des conditions climatiques à prendre en compte. Bon, Didier Deschamps a bien compris que c'était une édition un peu particulière. La météo, alors il y a un problème de météo. Des fournaises à ciel ouvert, l'expérience vécue par les joueurs sur les pelouses américaines lors du mondial des clubs l'été dernier a été par moments difficile à supporter. Le thermomètre affichait lors de certaines rencontres disputées en pleine journée plus de 35 degrés. Waouh! Hein? Et il n'y a aucune raison pour que ça change l'été prochain, notamment du côté de la Floride, de la Californie, du Mexique, où les températures moyennes oscillent entre 30 et 33. Plus l'humidité, Sugar a raison. La FIFA reste attentive à la question et pourrait instaurer deux pauses fraîcheur par mi-temps, hein? Sans pour autant prendre le problème à bras-le-corps. Une partie des rencontres devra en effet débuter à midi ou dans le courant de l'après-midi. T'as en plus la... Attends, on est en train de nous dire qu'il y aura des températures de 30-35 degrés et que les matchs auront parfois lieu le midi ou l'après-midi. Eh oui, pour satisfaire notamment le public européen. Décalage horaire oblige.
Quel bordel!
Cette programmation interroge et ces fortes chaleurs sont une véritable source d'inquiétude chez les joueurs. La Camillette me dit que c'est pas possible de jouer au foot dans ces conditions à plus de 35 degrés. C'est chaud en vrai. Selon l'étude publiée en novembre 2024 dans une revue scientifique, les équipes seront exposées à un risque très élevé de stress thermique extrême dans 10 des 16 stades. Ces conditions climatiques sont également désagréables pour les supporters, confrontés à la violence des indices UV. En parallèle, la compétition pourrait être perturbée par des violents orages fréquents dans le sud-est et le centre des États-Unis, hein, qui avaient déjà entraîné l'interruption de plusieurs rencontres du Mondial des clubs la dernière fois. Le protocole américain est clair, lorsqu'un coup de tonnerre retentit dans un rayon de 8 miles, 13 km d'un stade, le match est interrompu 30 minutes. On va être content, la chaîne de télé. Ce risque d'orage devrait être considéré par la FIFA dans le programme des matchs. C'est moi ou ça s'annonce un peu comme un bordel le truc? Des stades ahurissants mais mal desservis. Pour faire face à ces aléas climatiques, la FIFA peut tout de même s'appuyer sur plusieurs stades modernes et couverts à Atlanta, Los Angeles, Dallas, Houston, Vancouver. Des enceintes qui sont des bijoux technologiques dotés pour la plupart d'un système de climatisation permettant de réguler la température. C'est marrant quand il y a eu la coupe du... Quand il y a eu le... C'était quoi le... Oh. C'est les JO... Alors, c'était... Attends, c'était quoi déjà le... les stades là au Qatar là c'était... Il y avait quoi là-bas? Ah, c'est la coupe du monde au Qatar. Ouais. Et là, à l'époque, tout le monde disait que c'était un scandale les stades climatisés. Puis là, maintenant, c'est les États-Unis, plus personne n'en parle. C'est marrant. Vous vous rappelez de la polémique, le scandale sur les stades climatisés au Qatar? Et là, ça passe crème. Oh, bon, aux États-Unis, c'est pas grave. Non, mais c'est marrant. J'ai l'impression que c'est un peu deux poids, deux mesures, quoi. Ah, c'est vrai que le Qatar, ça avait, c'est des stades qui avaient été construits exprès. Il y a aussi la question de la main-d'œuvre. C'est vrai. C'est vrai. Alors qu'aux États-Unis, manifestement, ça existe depuis longtemps, puis personne ne dit rien. Quoi. Après, on sait bien que si tous les citoyens du monde vivaient en matière de production de CO2 comme les Américains, la planète serait déjà totalement en flamme. Quoi. Le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, le SoFi Stadium de Los Angeles, propose une expérience assez remarquable aux spectateurs. le MetLife Stadium de New York où se déroulera la finale. Ah, la finale, c'est à New York? Comme nous aussi? Non, F-Society. On a beaucoup de torts. Mais. Et de la même manière, si tous les citoyens du monde vivaient comme les Français vivent en matière de consommation et d'émissions de CO2, on aurait aussi un problème, mais on est quand même très en dessous de nos amis américains, quoi. Voilà. Donc, la finale à New York, ça par contre, ça a de la gueule. Voilà. 82 500 places. Voilà. Mais il n'y a pas de clim. Voilà. Si tous ces stades sont déjà opérationnels, la majorité d'entre eux est assez mal desservie par les transports en commun. Bon, ils font ça, ils font tout en bagnole là-bas, non? Ce manque d'accessibilité avait provoqué d'importants embouteillages lors du mondial des clubs. La FIFA a pris conscience du problème et a compris que la voiture serait massivement utilisée. Allez! Selon The Athletic, des places de parking seraient vendues entre 75 et 175 dollars pour un match à Dallas. Let's go! L'organisation du mondial dans trois pays rime avec longs trajets et déplacements fastidieux, tout le contraire du Qatar 2022 où les équipes pouvaient rejoindre tous les stades en car. On est quand même. Il y a un monde où on est en train de dire que le Qatar c'est mieux, quoi. Hein? Eh, on est quand même arrivé à un moment de l'article où le mondial aux États-Unis, Canada et Mexique, ça a l'air tellement insane en termes de CO2, de déplacement, des trucs, qu'il y a quand même une phrase où on est en train de dire qu'au Qatar c'était mieux. Ça pouvait se faire en bus. Ça, j'adore. Si la FIFA a essayé de constituer la majorité des groupes par zone géographique, les grandes distances séparant les villes hautes obligeront les sélections à utiliser l'avion entre les matchs. Une équipe du groupe E pourrait par exemple se déplacer à Houston, Toronto et Philadelphie pour disputer les trois premiers matchs de son premier tour. D'autres cas de figure extrêmes existent. Un voyage à Guadalajara au Mexique, après deux matchs à Atlanta ou à Miami, groupe H, ou encore un road trip Vancouver, Seattle, San Francisco dans le groupe D. Allez, des miles et du CO2 aussi. Cette folle cadence continuera lors des matchs des phases éliminatoires, avec potentiellement 5 villes différentes à visiter entre le 16e de finale et la finale. Alors, c'est vrai, il y a Paramé, le chaudron magique, qui dit qu'il faut remettre en perspective 3 millions d'Américains prennent l'avion chaque jour. C'est vrai. Mais c'est peut-être un problème aussi. Encore une fois, si les citoyens du monde entier vivaient comme les États-Unis, la planète serait déjà totalement en feu, hein. Le lieu du camp de base sera un enjeu fort pour limiter les temps de trajet entre chaque match, mais la répétition des déplacements et ses contraintes logistiques pourraient peser à avoir leur importance tout au long d'une compétition encore plus longue que d'habitude. Il y a plus de matchs. Le rêve américain demandera une sacrée endurance. Bon, après, si on gagne la Coupe du Monde, on s'en foutra, hein. Pas déconner, hein. Parce que c'est bien beau tout ça, mais l'important c'est quand même qu'on mette la troisième étoile. Non, je plaisante. Non, mais en vrai, c'est bien si les Français gagnent. D'ailleurs, il y a un article là-dessus sur les Bleus qui visent l'étoile. Parce qu'on va aussi s'intéresser quand même à l'aspect sportif. Hein, je vais pas être que mon militant ultra chiant sur tout là. Moi, je connais rien au foot. Mes connaissances en la matière sont limitées, mais je respecte la passion de certains pour ce sport, et je peux comprendre qu'on soit un peu hypé aussi par le fait que, je sais pas, les Français chopent une troisième étoile sur le maillot quand même. Deux finales de suite, on part dans les favoris logiquement, dit Sugar. Oui, je pense qu'on est toujours dans les favoris. Ça va être compliqué, l'Espagne est très forte, me dit Erepsiol. Lisons ça alors. Et maintenant, foncez. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans cette compétition, les hommes de Didier Deschamps visent la victoire finale. Bon, je suis nul en foot, mais je sais que les hommes de Didier Deschamps, c'est quand même les Français. Si elle y parvenait, la France ne serait que la troisième équipe de l'histoire à disputer trois finales consécutives. Let's go ! C'est nous, ça. Après l'Allemagne, 82-90, Brésil, 94-2002. C'est la France, mesdames et messieurs. Une seule fois, le patron des Bleus n'est venu que pour humer l'air du temps en 2014 au Brésil. Blablabla, ça c'est du blabla, ça, on s'en fout. Blablabla, blablabla, blablabla. Donc l'article dit Didier Deschamps, il est super, il est très fort. Ok, super. Ok, très bien. S'appuyant sur 16 joueurs de très haut niveau, le championnat du monde 98 et 2018, ça c'est chez nous ça. Parvient à réaliser des prouesses avec ses basiques. Blablabla. Donc là, il y a les grands joueurs. Hein, Mike Maignan, Kylian Mbappé. Voilà, un grand gardien, un grand buteur. Voilà. Bien sûr qu'on ira pour gagner, réagit Kylian Mbappé. Je ne comprends pas ce truc de demi-finale. Si l'objectif c'est demi-finale, on arrive en bon. Bref. Voilà. Bon, ils veulent gagner, quoi. Voilà. L'objectif, c'est de gagner. On a tous ce rêve de mettre la troisième étoile sur le maillot. Moi, je m'en fous. Et en même temps, je m'en fous pas. Je m'en fous pour moi, parce que je suis pas foot. Mais je sais qu'une troisième étoile sur le maillot de l'équipe de France, ça va faire plaisir à une partie de la population. Et moi, je respecte la passion des autres. Donc, si une troisième étoile, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. On a été proche de le faire en 2022. 2026 ne nous rendra pas 2022, mais trois Coupes du Monde, c'est toujours mieux que deux. Putain, je suis nul. On a perdu en finale la dernière, c'est ça? Contre qui? Qu'est-ce qui nous a piqué là? Qu'est-ce qui nous a piqué? La troisième étoile. L'Argentine? Mais d'où? Mais d'où? Messi! J'ai toujours su que ce mec était fourbe un peu, non? Messi, là, avec ses airs de tu sais, quand il marche, là, quand il marchotte, là, dans la surface, là, à faire genre... Tu sais, c'est comme les enfants qui font mine de ne pas voir le pompon dans les manèges. Tu sais, les pompons, là. Tu sais, les pompons dans les manèges pour avoir un tour gratuit. Les enfants, les malins, ils font mine de ne pas voir le pompon. Tu sais, ils sont pas comme ça, là, ils essaient d'attraper le pompon. Tu vois, ils attendent que le pompon se mette sous leur nez. Parce que le monsieur du manège, il croit que l'enfant, il fait pas attention. Hein? Et hop, au moment où le pompon, il est sous le nez, qu'est-ce qu'il fait? Hop, un tour de manège gratuit. La queue de Mickey, voilà, c'est ça. Bah, mais si, c'est pareil. Mais si, c'est pareil. Il est là, à marcher dans la surface. Hein, et bam! Espèce de fourbe, bah. Alors lui, donc c'est lui qui nous a volé la troisième étoile. C'est fou ça. Hein. On a l'air filou, exactement, ouais. Malgré la défaite, c'est l'une des plus belles finales en termes d'émotion avec un 3-3 légendaire. Ok, putain, je me rappelle de rien, c'est une catastrophe. Pourtant, je l'ai vu ce match. Hein. C'est fou ça. Ah, donc, on nous a volé. Le mec qui n'y connaît rien. Match de fou, non, mais j'y connais rien, vous le savez. Ok, bon, bravo aux Argentins, s'ils ont gagné, c'est qu'ils étaient meilleurs sur ce match. Hein. Bon. Donc, les Français parmi les favoris. Mais ils ne forment pourtant pas la meilleure sélection du monde. Et comme le disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, c'est toujours l'Espagne, avec son jeu mobile et offensif infernal, servi par le prodige Lamine Yamal. Le Portugal est souvent donné favori aussi. Alors que l'Argentin demeure la meilleure la sélection sud-américaine. Un France-Allemagne ou un France-Angleterre en quart ou en demi resterait un duel incertain. Bref, on connaît l'histoire, le scénario de ces matchs pour l'éternité, les détails, les vertiges. Espagne, France, Portugal, Argentine, Allemagne, Angleterre. On sait les favoris d'un trophée qui ne s'est abandonné qu'à 8 pays depuis sa création. Il n'y a que 8 pays depuis le début de l'histoire de la Coupe du Monde qui ont remporté cette Coupe du Monde. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein? Et, ah, le Portugal n'est toujours pas qualifié, me dit Paramé. Ok. Et cette fois, le Brésil, l'Italie, si elle vient, et l'Uruguay n'ont pas des têtes de vainqueur. Ah. Et la surprise alors, le Maroc and Roll, jeu de mots, formidable en 2022, peut refaire le coup. C'est vrai, ça, je me souviens, ça. Surtout s'il remporte la CAN chez lui début 2026. Le Maroc, depuis quelques années, c'est fort, hein. Très fort. Ce mondial de tous les extraits sera particulièrement dur à remporter. C'est l'Amérique, elle se mérite. L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. Bon, c'est une vieille rêve de vieux, faites pas attention. Ok. On verra, on verra. Le Maroc, non, pas Roquefort, non. Non, le Maroc and Roll, pas le Maroc fort. Non, y a pas. Non, le Maroc ne fait pas de Roquefort, enfin pas à ma connaissance. Joe Dassin, voilà. L'Amérique, l'Amérique. Excusez-moi. Merci Zara Kiri. Merci René. Merci Steven. Actuellement. L'avoir, je l'aurai. Ok. La maroquinerie? Non, mais c'est quoi ces jeux de mots, le Maroc? Un peu de respect pour le peuple marocain. Qu'est-ce que c'est ces jeux de mots, le Maroc fort, le maroquinerie là? Stop, stop, stop! Je dis stop. Enfin. Ouais. Bon, on parle des robots taxis. Est-ce que tu peux me répondre Est-ce que tu veux qu'on peut se parler? Bien faire des efforts, mais... Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que tu veux qu'on peut se parler? Ouais, non, mais les gars, putain, je veux bien faire des efforts, mais... Écoute, pas... pas... N'hésite pas à poser ta question. Ok. N'hésite pas à poser ta question. Allez, sommaire. Donc, on passe sur l'essor des robots taxis maintenant. Mais pose ta question, mais avec plaisir en vrai, pose ta question en vrai. Hop, on est sur 2h05 de revue de presse. Eh, ça bosse même le week-end. Allez! J'ai jamais autant bossé. Putain, je m'étais dit, tiens, je vais arrêter la télé, je vais être plus cool en termes de rythme. J'ai jamais autant bossé de ma vie. Hein. Ras-le-bol. Hein. Ras-le-cul. Hein. Ras-le-bol. Le mec qui râle tout le temps. Putain, je me suis bien fait avoir. Hein. Bien fait avoir là-dessus. Hein. L'essor des robots taxis. Ta passion était vraiment un travail. Oui, quand même, hein, c'est quand même du boulot, hein. Ça se dit ça? Ralzigouigoui? Le mien. Donc là, je le prends. Ralzigouigoui! Let's go! L'essor des robots taxis, c'est parti. J'ai mis un TC ou pas? J'ai mis 2h05? J'ai mis 2h05. Pardon, Samuel, t'as pris la température, t'as la fièvre? Un peu, je pense, ouais. Vite fait. TikTok, je vous mets la flèche. Allez! Je vous la mets. Alors, le mondial des excès, c'est fait et on passe à robot taxi, l'essor. Bam. Appliqué. Ce soir, du Valo. Oh, j'ai tellement envie de jouer Sage. J'ai découvert Sage avec les amis la dernière fois là. Je jouais pas Sage. J'aime bien Sage. Au service des autres. Ça heal, ça revive, ça met des petits walls. J'ai vu des clips sur TikTok quand tu mets les murs, certains endroits là. Hein, tu peux monter sur le mur et avoir des angles de tir de fou là. Hein? Ouais, on va jouer ça ce soir. Je pense que je ferai deux deathmatch ou trois, deux, allez, deux deathmatch, une solo queue. Si mon compte n'est pas suspendu, c'est pas gagné ça. Tiens, je vais le lancer pour rigoler, tiens. Et après de la ranked avec les amis en 5 stack. Tiens, je vais lancer mon compte. Comment ça, Sage, la sentinelle inutile? T'aimes pas? Tiens, attends. Mon mot de passe. Le BG du 75 TTBM. C'est bon. T'as déjà joué Sage au tout début de Valo? Je crois pas, non, je vais jouer Phoenix, je crois. Alors attention, je lance Valo juste pour voir, c'est pour vérifier un truc, c'est par rapport aux gens qui étaient sur le début du stream, ils savent ce que je suis en train de faire. Je pense qu'on va bien rigoler. Merci Juroscoff. Merci mon ami. Est-ce que je pourrais venir jouer à question pour un champion? Mais ouais, bien sûr Marwan, mais faut passer les sélections. Faut passer les sélections. Tu t'inscris sur Internet, c'est hyper simple. Après on t'appelle, tu passes les sélections au téléphone. Mais il faut passer les sélections. Même l'ami étoile a passé les sélections. Bien sûr. Alors attention, Alors, j'étais sanctionné par Riot. Hein. Ah, vous voyez pas? Attends, faut que je vous le mette. La sanction, la sanction. Alors attends, attends, Valorant, Valorant, capture de jeu. TikTok, je pense que je suis pas sûr de pouvoir le mettre, mais je vais le montrer aux amis de Twitch, ils vous raconteront. Voilà. Ok, let's go. Sanction de... Pour quelle raison? Bah en fait, je suis tombé sur une 5 stack, enfin un solo queue hier, où en fait les mecs étaient hyper insultants, hyper toxiques, hyper fous quoi. Et j'ai fait un alt F4 au bout du troisième round, j'en pouvais plus. J'ai craqué. Je les ai laissés tout seuls. Du coup, ils ont été battus. C'est chien. Tant pis pour leur gueule. Et donc voilà. Donc, after an automated review of your gameplay. We discovered that you had some trouble staying connected. Ah non, non, j'ai pas eu des problèmes à rester connecté. J'ai fait un Alt F4 volontaire parce que je jouais avec des chiens. Ce comportement, je passe en français. Hein, ce comportement impacte négativement la compétition. Ah bah tu m'étonnes, ils ont perdu. Mais c'était bien, c'était bien mon espoir, hein. Ça m'aurait fait chier qu'il gagne. Voilà. Alors, comme résultat, vous n'aurez pas d'XP pour cette game. Bah tu m'étonnes, ils ont perdu de toute façon. Ok, peu de chance qu'on gagne des XP. Ah, mais ils m'ont pas enlevé d'XP? Attendez, ça veut dire que les mecs qui ont perdu, ils ont perdu de l'XP? Et moi non? Ah, tu perds des R quand même? Alors. Donc, Renifleur de Peck, j'ai perdu 7 points. J'ai perdu que 7 points? D'accord. Ah, ok. 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 Je lis ça de mémoire. Mais j'ai pas fini la partie, j'ai arrêté au troisième round. Ok, teamwork and respect are essential to be a team that wins together. Ouais, mais enfin, me mettez pas des chiens en même temps. Tu peux me voir dans ton historique ce que t'as perdu, bon, ouais. Vous avez qu'à faire le ménage aussi, hein. Râle le cul, hein. Ça, c'est ça, regarde. Ah, moins 7! Moins 7, c'est tout! Moins 7 pour avoir fait un alt F4 au genre au troisième ou quatrième round? Putain, bah c'est pas cher payé, hein. 8-13. Tant mieux pour le votre gueule. Ah, c'est parce que ce jeu sait que d'habitude, je suis un mec carré, quoi. On va se barrer plus souvent, hein. Non, mais en vrai, les mecs étaient fous, quoi. Les mecs étaient fous. T'avais le gars bottom frag Reyna là, qui a fait genre un kill en 3 rounds, qui essayait de m'expliquer comment je devais jouer. Alors j'en avais fait 9. Et qui. Ouais, j'ai fait un plus 34 juste avant, ouais. Ouais. Et qui m'a écrit dans le chat Enjoy Urban. Le mec était. Il jouait une Reyna de caca. Il était bottom frag, 4 espagnols. Et il me trashait à chaque round en disant que je jouais pas comme il fallait. J'avais 9 kills au troisième round. Voilà. Et il me met Enjoy Urban. Mon son n'a fait qu'un tour. Mon son n'a fait qu'un tour. Et là, j'ai fait un petit Alt F4. J'ai dit, eh ben, vous savez quoi? Et je vais aller dîner. Ciao! Bonne partie! 13-8! Bam! Quelque chose me dit qu'ils ont perdu un peu plus de 7 points. Chez! Non, mais sans blague. Sans blague. Non, mais vous êtes d'accord, c'est pas cool, quoi. Excusez-moi, l'ami TikTok, j'étais sur un truc sur Valo là. Non mais écoutez, non j'étais pas cool. Non, j'étais pas cool. Alors que la partie d'avant, j'étais tombé sur des fous aussi. Bon, bah, j'avais mute tout le monde. On avait fini par gagner. J'étais troisième score de la team, d'où les 34 points là. C'est ce que j'aurais dû faire, j'aurais dit mute, mais bon. Bah attends, le mec m'a dit Enjoy Urban. Mais on va te faire foutre en vrai. Tu vois? Un petit Alt F4 quoi. Alors que si on te met avec eux dans la même pièce, vous allez boire un verre, ouais, une petite sangria. Voilà. Oh, excusez-moi, excusez-moi. J'en reviens au robot taxi. Excusez-moi pour la petite parenthèse Valo. Mais moins 7 points seulement. Ouais. Peut-être qu'ils sont allés voir que les mecs ont bien trashé avant aussi. Hein. Peut-être. Non? Vous croyez pas? Allez. Selon le Figaro, qu'est-ce qui se passe avec les robots taxis? L'essor des robots taxis aiguise l'appétit des géants de la tech. Uber, Google, Amazon, Tesla, BYD, Baidu, Nvidia, les poids lourds de la tech, Nvidia, se sont invités sur le ring des robots taxis, ces voitures sans conducteur qui embarquent des clients actuellement d'une quinzaine de mégalopoles dans le monde. Ça, c'est intéressant. Il y a les mecs qui ont de la thune en ce moment. Des mecs ont de la thune en ce moment. Ils mettent des sous sur les robots taxis, quoi. Donc attention, ça va peut-être s'accélérer, quoi. Même si les taxis sans chauffeur ne sont pas encore rentables, leur activité commerciale progresse rapidement en Chine, aux États-Unis. Ils sont déjà en service commercial dans 5 villes aux States, Atlanta, Austin, Phoenix, Los Angeles, San Francisco, et 4 mégalopoles chinoises, Pékin, Shanghai, Guangzhou, pardon, et Shenzhen. Ces services futuristes sont certes encore modestes. Uber n'a déployé que des centaines de robots taxis dans le monde. Waymo, c'est Google, pas plus de 2000, autant que Baidu. Mais leur essor pourrait être spectaculaire en Chine, où les clients sont friands d'innovation et les autorités prêtes à les soutenir. Des tests sont en cours dans d'autres villes américaines et chinoises. Ils commenceront bientôt en Europe où les réglementations sont définies à l'échelle nationale. Baidu démarrera ses essais en Suisse en décembre. Avec Postbus, l'an prochain, Waymo déboulera à Londres. Okay. Uber et Momenta préparent leur arrivée à Munich, début 2026. En revanche, aucun robot taxi ne se profile à Paris. Qu'est-ce qu'on a encore fait ? Merci, Is a Legend. Merci, merci à tous. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a encore fait ? C'est quoi ? On pue du bec ou quoi ? C'est la réglementation ? Ah. C'est la législation, c'est interdit encore ? D'accord, okay. Ok. Comment ça, c'est à cause du fromage ? Ah, parce qu'on pue du bec ? Ok. Les ambitions de ces pionniers sont immenses. Associés à Nvidia, Uber vise le déploiement d'une flotte mondiale de 100 000 robots taxis dans le monde, sans préciser à quelle échéance. De son côté, Musk prévoit de lancer des robots taxis Tesla en test dans 10 villes d'ici la fin de l'année avec plus de 1 000 véhicules. Oui, mais moi aussi je m'inquiète pour l'emploi, bébé Coli. Là, je rigole sur les robots taxis, je trouve ça assez fascinant. Mais moi je m'inquiète pour l'impact en termes d'emploi, pour les taxis, pour les chauffeurs et chauffeuses. Aimantés par les perspectives offertes par l'IA dans la conduite autonome, ces géants sont décidés à faire mûrir cette mobilité magique. À les entendre, les humains n'auront plus à conduire de véhicules à l'avenir. Ouais, je dis Uber, moi. Ouais, on dit Uber plutôt, c'est ça. À les entendre, les humains n'auront plus à conduire, blablabla. Des opérateurs de flotte tels que Uber, Demicel, Apollo Go, Xoox, Pony AI, WeRide, d'autres mettront à disposition des voitures ou des vannes autonomes. Ils se chargeront de la recharge, de la maintenance ou encore du nettoyage de voitures qui rouleront nuit et jour. Ok. Uber, c'est pas de la margarine ? Si, Uber 41, je sais pas quoi. Saint-Uber 41. Ouais. Leur argument, un robot taxi sera 1000 fois plus fiable et sûr qu'un véhicule conduit par un humain. Ça, c'est pas impossible. Uber. Ah, c'est pas mal. Il y a Bandini qui dit c'est intéressant. Au-delà de ça, les villes américaines où ils sont présents ont un point commun. Ce sont des villes bâties autour de la voiture, des voies larges, des suburbs, des banlieues à non plus finir. Ça limite un peu les risques. Une circulation ultra condensée, voiture plus vélo plus piéton comme Paris, pose un vrai problème. Ouais, puis il faut voir comment ça conduit à Paris. Leur argument, un robot taxi sera 1000 fois plus fiable et sûr qu'un véhicule conduit par un humain. Uber prévoit de robotiser progressivement toutes ces activités, VTC, livraison. Ah ouais, Uber, ils veulent supprimer tous les postes de chauffeur. C'est marrant, parce que moi, je pensais que toutes ces boîtes... C'est bizarre. Moi, je pensais que toutes ces boîtes... Uber, Google, Amazon, Tesla, c'était des boîtes qui voulaient créer de l'emploi, moi. C'est pas des entreprises dont le... Au cœur du truc, il y a vraiment l'envie de créer de l'emploi pour faire du bien à notre société. Je suis un peu surpris, là. Il n'y a pas un qui rigole à la vanne, là ? Ah, quand même ! Enfin, merci, quoi. Putain, je me décarcasse pour un one-man show, incroyable. Non, c'était une vanne. Hein. Non, putain, vous me regardez avec des PS2 ou quoi ? Ça rigole, mais maintenant, quoi. Ça fait deux heures que j'ai fait la vanne. Bon, je la raille, j'ai un one-man show qui arrive à Paris, là, en 2027. Je vais rayer la vanne, par contre, parce qu'elle n'a pas l'air de marcher. Hein. Ok, je vire. Ok. Oui, c'était ironique, hein. Je croyais que t'étais sérieux. Non, c'est pas les entreprises. Non, c'est que du... Non, c'est juste l'objectif pognon, hein. Merci, Ducostar. C'est Samuel ou le Raphaël Pain ? Voilà, merci, ça fait plaisir, ça. Voilà. Il y a une étude qui estime que les flottes de robots taxis devraient fonctionner à grande échelle dans 40 à 80 villes d'ici 2035, selon que leur essor sera accompagné ou non par l'évolution de la réglementation, la robustesse de l'écosystème, etc. Alors que l'arrivée sur le marché des voitures particulières qui roulent toutes seules, avec un niveau d'autonomie de niveau 5 le plus élevé de l'échelle actuelle, est encore hypothétique, selon les experts, les robots taxis niveau 4 circulent dans les villes. Comment expliquer ce décalage ? L'approche technologique est différente. Les taxis sont des robots conçus dès le départ pour fonctionner seuls grâce à des capteurs et des calculateurs. Leur pertinence est limitée dans l'espace. Chaque robot taxi circule dans un périmètre géographique donné et cartographié, ce qui limite la complexité de la tâche. Les robots taxis sont de niveau 4. Ah, ok. En revanche, la voiture individuelle, elle, sera amenée à rouler partout, all over the world, ce qui représente un bond technologique majeur. Parmi les grands acteurs de cette mobilité autonome, Waymo, filiale d'Alphabet, Google, avec laquelle Uber exploite ses robots taxis, dont le grand leader de cette technologie, avec plus de 15 millions de courses réalisées. Il y a le chinois Baidu qui le talonne. Okay, voilà. Il y a Tesla maintenant aussi, avec ses Cybercabs. Ok. Ok. Différents modèles, quoi. Le business des robots taxis n'en est qu'à ses débuts, son modèle économique n'existe pas encore. D'un point de vue tech, les problèmes ont été largement résolus, estime le président d'Uber. Nous travaillons avec 20 partenaires qui forment notre écosystème. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment gagne-t-on de l'argent avec les véhicules autonomes et quels sont les coûts? Les mecs, ils disent non, non, au niveau technologie, on sait faire, hein. C'est juste qu'il faut inventer le modèle économique. Parce que le coût d'utilisation de ces actifs high-tech sont chers. Voilà. Donc c'est le rendement, c'est le volume, la montée en cadence qui vont faire baisser les coûts. Pourquoi c'est cher? C'est bizarre, moi j'imaginais pas que c'était si cher. Même si la rémunération du chauffeur n'existe plus, parce que le robot taxi n'est pas payé lui en tant que tel. Hein. Le prix des courses n'a pas fondu. Uber a choisi d'aligner celui de ses robots taxis sur celui des VTC. Le coût d'une course de VTC, pas le prix, hein, le coût est 5 fois plus élevé que celui d'un VTC. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est cher? Qu'est-ce que c'est cher? C'est fou. Comme quoi, l'humain, il est moins cher. Il est peut-être pas assez payé, l'humain, peut-être. De plus, la demande n'est pas au rendez-vous à toute heure et de la nuit. D'accord. Ah, ça roule pas tout le temps, quoi. Et les immobilisations sont très coûteuses, ok. Ah, je comprends, eh oui. Gros besoin, par exemple, samedi soir à 23h, et le mardi matin à 4h, il n'y a personne. Et donc, tu as 90% de la flotte à l'arrêt. Ah, l'amortissement, oui. L'amortissement, sans doute. L'amortissement de l'investissement, ouais. Ok. Cela représente un défi économique très difficile à relever pour les propriétaires des actifs. On va vous plaindre en plus, hein. On va vous plaindre en plus, hein. Notre approche consiste donc à mettre en place un réseau hybride afin de pouvoir faire face aux pics grâce à une combinaison d'humains et de robots tout en disposant d'un niveau de base grâce aux véhicules autonomes. En gros, on va se servir des humains tant qu'on n'a pas trouvé la solution, quoi. Pour qu'on se fasse de la thune. La productivité du robot laisse toutefois espérer des revenus élevés. Nous, merci Mafalia. Nous déployons à l'échelle mondiale, ce qui signifie que nous pouvons prendre un acte. Bon, c'est bon, ça, c'est des sous, c'est des sous. Ok. Bon, ils ont bon espoir de se faire de la thune, quoi. Après, moi, je suis un peu inquiet sur cette révolution, en raison des conséquences sur l'emploi. Voilà. Pardon de me soucier de l'emploi des chauffeurs et des chauffeuses, mais on dit chauffeuse? Non, peut-être pas. Conductrice de taxi. Voilà, je suis un peu inquiet pour ça. Et en même temps, ça me fascine, parce que moi, je n'aime pas conduire. Et j'aime bien l'idée, alors pas tellement qu'on remplace les taxis, par exemple à Paris, je suis à Paris moi, par des machines. Ça, je ne suis pas plus hypé que ça, parce que ça fonctionne plutôt bien. En revanche, avoir une propre voiture, moi, pour éventuellement lui dire, bah tiens, il n'y a pas de train là pour aller à Rennes ou à Besançon à cette heure-là, là. Du coup, hop, on met la famille dans la voiture, on met la destination et après on roupille, on joue à Valo, on écoute la radio, on lit des livres, on fait de la compta. Enfin, j'aime bien le truc un peu, ça me fascine un peu quoi. Moins de chauffeurs, mais sûrement de nouveaux emplois à venir. Je vois pas bien les nouveaux emplois là. Qui arrive à lire un livre en voiture sans avoir envie de gerber. Moi, c'est un de mes talents, ça. Marsopin dit les nouveaux emplois, ils ne seront pas en France. Étienne, appelle-moi Samuel. J'ai fait quatre magasins, il n'y a plus d'œufs. C'est quoi ça? Il y a des gens qui me parlent de la crise des œufs. Il n'y a plus d'œufs? Il y a plus d'œufs en France? C'est ça la vraie crise. Il n'y a plus d'œufs en France? Il y a plus, c'est fini? Il n'y a plus d'œufs? Il y a une crise des œufs? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ok, il y a une crise sur les œufs. Ok, pourquoi? 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 Même mes poules ne font plus d'œufs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pas grave, on va manger des yaourts comme Sarkozy. Elle est bonne, elle est validée. Y a pas faute. Le geste est propre. Ok. Par chez moi, c'est difficile d'en trouver. J'ai fait mes courses hier, j'en ai du mal à en trouver. Les poules ne veulent plus réarmer. Qu'est-ce qui se passe avec les œufs? Ok. Qu'est-ce qui se passe avec les œufs? Pénurie œuf, pénurie œuf. C'est parti. Eh oui, c'est vrai, c'est une vraie info. Pourquoi ne trouve-t-on d'œufs? Ouais. Il n'y a plus d'œufs. Actualité. La production peine à répondre à l'appétit des Français. Ok, c'est de votre faute. C'est parce que vous mangez trop d'œufs. C'est la protéine la moins chère, tout le monde se rue dessus. Voilà, c'est des pénuries. C'est pas tant qu'on n'arrive pas à produire, c'est que vous consommez trop d'œufs. Ouais, non, c'est parce que la consommation explose. Il y a un article du Monde, il y a un mois notamment. Le commerce des œufs sous tension en raison de la forte demande et du surstockage. Ouais. Samuel a fait éclater trop d'œufs dans les micro-ondes. Oui, c'est vrai. Je blâme Thibaut InShape. Ah oui, il aime bien les œufs, lui. C'est faux, ce matin, sur le marché de Guillotière à Lyon, à côté du Rhône, il y avait plein de producteurs du coin avec des œufs fermiers en pagaille. Fake news, me dit Corentin. Le réchauffement climatique, c'est faux. Hier, dans ma ville, il a fait froid. Merci, Corentin. Tu aurais pu mettre un capa, hein, pour être sûr que c'était une blague, quand même. Allez, on parle d'Ubisoft. T'aurais dû mettre un capa, là, en vrai. Allez, c'est parti. On est sur quoi, là? Alors. Sommaire. Frong Live. Thibaut, il aime bien le blanc des œufs surtout. J'ai peur qu'il y ait un double sens dans ta phrase là. Ubisoft. Ça va pas Ubisoft, hein. Bon, ça fait un moment que ça va pas, mais ça va pas là. Hein. Bon, ça fait un moment que ça va pas, mais là ça va pas. Vous allez me dire, ça fait un moment que ça va pas Ubisoft. Ouais, mais là ça va pas. Et je suis sûr que dans le chat, quelqu'un va me dire à l'instant, ouais, ça fait un moment qu'Ubisoft va pas. Et moi, je dirais, ouais, mais là, ça va pas. Ubisoft dans l'inconnu, c'est parti. Allez voir, quelqu'un va me dire, ouais, mais ça fait un moment que ça va pas. Et moi, je vous dis, ouais, mais là, ça va pas. Ubisoft dans l'inconnu, c'est parti. Vous allez me dire, ça fait un moment. Ouais, mais là, ça va pas. Excusez-moi, vous savez, à mon âge, il y a un moment, c'est des loops, c'est des boucles, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, t'es en surchauffe, quoi. Et ça fait un moment aussi. Hein. C'est pas que. C'est comme Ubisoft. Hein. Je vous ai dit qu'Ubisoft, ça faisait un moment que ça allait pas ou pas? Comment ça, je radote? Qui radote ici? Suspendu en bourse. Ça, c'est nouveau. Ubisoft s'enfonce dans l'inconnu. L'annonce non expliquée, aïe, 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 de différer la publication de ses résultats intervient en pleine réorganisation du géant du jeu vidéo. Que se passe-t-il chez Ubisoft? La question agite les marchés depuis que jeudi, l'éditeur tricolore de jeux vidéo a annulé en dernière minute la publication de ses résultats financiers. Pop, pop, pop. Une boîte qui annule au dernier moment la publication de ses résultats. Voy, 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 voy. Un communiqué diffusé peu après indique qu'Ubisoft a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions. Le cours de bourse est suspendu. obligation jusqu'à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre. Dans les prochains jours. Bientôt. Pourquoi un tel décalage? Frédéric Duguay, qui est le directeur financier du groupe, a apporté un début de réponse aux salariés. Nous avons besoin d'un délai supplémentaire pour finaliser la clôture des comptes. Ah, mais ils ont juste besoin d'un petit délai pour finir la compta. C'est rien du tout, ça. Pour des raisons réglementaires, nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment. Ah oh. Y a-t-il eu une irrégularité qui a empêché la validité des comptes? Oi, 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 oi. Y a-t-il eu une irrégularité qui a empêché la validation des comptes? Ouh, je reparle commissaire aux comptes, un truc comme ça. Cette raison conduirait effectivement à un décalage de l'annonce des résultats et à une suspension du cours le temps de communiquer au marché les chiffres exacts. Une suspension précipitée n'est jamais anodine, mais ça n'est pas nécessairement dramatique, souligne un analyste. Mais faute de communication plus poussée, en gros on sait rien, super, la machine à spéculation battait son plein vendredi, alors que l'action du groupe a perdu la moitié de sa valeur depuis janvier. J'ai bien fait d'acheter du Ubisoft, moi. Tu te dis, allez, je vais soutenir un petit peu la création vidéoludique française. Ubisoft, c'est le seul groupe de jeux vidéo qui est coté au CAC 40. Enfin, je pense qu'il est même sorti du CAC 40. T'en achètes, ah bah t'es content. Hein. Ah bah t'es content. T'as bien placé ton argent. Un placement de père de famille, bravo Samuel Etienne. Son titre ne vaut plus que 6,77€ pour une capitalisation de 834 millions d'euros. SBF 120, pas CAC 40. Tu m'écho, c'est littéralement ce que je viens de dire. Quand j'ai acheté Ubisoft, il était dans le CAC 40. Dans les 40 plus grosses capitalisations de la Bourse de Paris. Et maintenant, ils sont dans le SBF 120. Parce que ça vaut plus rien. Voilà. Merci de répéter littéralement ce que je viens de dire. Merci, tu m'écho, tu fais plaisir. Faut suivre la bourse, hein, un peu. Eh ouais, Ubisoft, ça a été dans le CAC 40, baby. Une bouchée de pain pour une entreprise détenant des licences fortes, pourtant. Hein, des technologies de pointe, des dizaines de studios de production à travers le monde ayant réalisé 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an passé. L'article dit, putain, il devrait valoir beaucoup plus cher. La suspension de cours agit d'autant plus qu'Ubisoft est en pleine réorganisation. Le 1er octobre, il s'est scindé pour créer une filiale, Vantage Studio, qui a pour mission de gérer les trois marques les plus lucratives du groupe. Les trois licences, quoi. Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Et de leur faire générer 1 milliard d'euros par an. Les autres licences d'Ubisoft vont à leur tour être regroupées dans plusieurs maisons créatives. Donc en fait, ils vont compartimenter Ubisoft. T'es acheté à combien? Oh là, à cher. Merci, un pavé dans la mare. Ubisoft multiplie les échecs commerciaux ces dernières années. Son jeu de la dernière chance, comme il avait été présenté par certains, Assassin's Creed Shadows, a atteint les 5 millions de joueurs en 3 mois. C'est pas mal, 5 millions de joueurs. Mais, selon nos informations, cette production ne devrait pas rentrer dans ses frais avant les fêtes de fin d'année. Ce qui est inquiétant, c'est que notre calendrier de sortie est vide. Nombre de gros projets sont loin d'être prêts de sortir et certains d'entre eux se passent mal, indique un salarié basé au Canada. Vantage de studio sera co-détenu par Tencent, hein, le géant chinois de la tech, qui n'arrête pas de monter au capital du groupe, hein, obtiendra 25% de la filiale en échange de 1,16 milliard d'euros. Opération qui aura pour intérêt de désendetter Ubisoft. Y a-t-il de la friture sur la ligne entre Paris et Shenzhen? C'est l'une des hypothèses qui pourrait expliquer la suspension de l'action. Paye. Bordel. La suspension du cours ne fait qu'ajouter de la tension pour les 17 000 salariés. Ayons une pensée pour les salariés du groupe quand même. Ça va pas là. Le groupe a annoncé en mai un plan d'économie de 100 millions d'euros. Il se traduit par une réduction de la masse salariale via des méthodes qu'Ubisoft a longtemps répugné à utiliser. Fermeture de studios, licenciement, plan de départ volontaire. Les syndicats ne peuvent s'empêcher de penser que la réorganisation d'Ubisoft en plusieurs maisons faciliterait aussi une vente par petits bouts. Prenez cette info avec beaucoup de pincettes. Mais, c'est dans le Figaro page 28. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans l'univers du conseil et qui accompagne ou a accompagné Ubisoft. Vous savez, comme vous savez, dans les cabinets de conseil, ils disent Telio Linux, merci. Ils sont là pour que pour ils sont en mode full bénéf quoi. Parfois ils interviennent auprès de boîtes qui sont en difficulté pour leur dire ce qu'il faut faire pour gagner plus d'argent ou regagner de l'argent quand ils en perdent. Voilà. Et le conseil de ces boîtes de conseil à Ubisoft depuis des années, c'est ah, les gars, un bon gros plan social là. Allez, et tout au Canada. Hein. Hein. Ubisoft, qui est un studio qui emploie beaucoup de gens, et qui, contrairement à certains de ses concurrents, effectivement, a pas licencié, ou beaucoup moins licencié, que les concurrents qui ne sont pas emmerdés quand ça allait pas très très bien, pour faire des méga plans sociaux, en attendant que ça passe. Quoi. Moi, l'info que j'ai, c'est que Ubisoft a pas fait ça. A pas fait ça massivement. Hein. Ignorant les conseils de, vous savez, de ce genre de cabinet, qu'on n'a rien à foutre. Voilà. Et c'est ce que dit l'article aussi. Et que c'est peut-être ce qui arrive finalement. Alors Bandini me dit c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Pas massivement, mais à répétition quand même, bien sûr. Mais moins que les concurrents. Alors, 1508 Raf me dit, Ubisoft a, je crois, le plus grand nombre d'employés dans le monde du jeu vidéo. Ça, je sais pas, mais c'est pas impossible. Ouais. Et encore, ils ont déjà salement réduit la voilure, me dit Gimster. Ils sont passés de 23 000 salariés à 18 000. Ah ouais. Bon. Bon, bah, à suivre. Bon, les amis, doucement, je me dirige vers le dîner en famille, moi. Je vais dîner avec mon amoureuse et mes loulous. Mais un dernier sujet, avant de se retrouver peut-être ce soir sur du Valo, pour faire du Alt F4. Bien sûr, sur un article assez passionnant dans le Monde. Oui, je suis d'accord, Xamolot qui dit le bashing systématique de chaque jeu proposé par Ubisoft, un problème, je suis d'accord. Un article, un dossier dans le Monde sur la fanatitude dans le monde de la création de contenu. Le rapport entre les fans et les youtubeurs, les streamers, etc. Vous retrouvez la belle tête de Nico dans le monde quand même. Dans le monde. Suivi comme des rockstars et salué comme des amis, hein, les créateurs de contenu inspirent une ferveur nouvelle. En fait, le monde nous explique que la fanatitude vis-à-vis des créateurs de contenu, elle est un peu différente. C'est ce qu'on appelle le phénomène parasocial, tu as raison, Matt. De la relation fan qu'il y avait avant avec, je sais pas, les artistes, par exemple. Puisqu'il y a un côté proximité, notamment par le live, par la création de contenu, qui rend tout ça un peu différent. Une proximité que certains influenceurs vivent mal, nous explique Le Monde, et je pense qu'ils vont prendre l'exemple de Nico et Bailan. Voilà. Un après-midi d'octobre, dans les rues de Paris, Soufiane, les personnes citées par leur seul prénom requis l'anonymat, nous dit Le Monde, 17 ans, lycée en bac pro, asséché une heure de cours pour rejoindre Nicolas Trouvé, 26 ans, 3,5 millions d'abonnés cumulés sur Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, et Bailan, 21 ans, 5,5 millions d'abonnés en cumulé, deux célèbres streamers qui effectuent une très longue marche entre Montpellier et Paris. C'était incroyable, exceptionnel ce qu'ils ont fait à l'époque, Nico et Bailan, bien sûr, la marche à pied entre Montpellier et Paris. Leur périple qui touchait à la fin a commencé par un pari fou à la fin du The Event. Les deux streamers, vous connaissez l'histoire, ont proposé de rentrer à pied si leurs fans versaient 150 000 euros de dons à cet événement caritatif, le Super The Event, qui a eu lieu du 5 au 7 septembre. Ah oui, j'ai pas actualisé. 2h37, on va mettre. Pardon, merci Alexandra. Ok, 2h37. De stream. Ok, la flèche. La sélection là. Hop, 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 hop. Ah, il y a des trucs à changer. Je vais embaucher quelqu'un, hein. Je vais embaucher quelqu'un pour faire tout ça. Hop, 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 hop. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, mais j'ai pas collé ce que je voulais, mais je suis débile. Oh, qu'il est bête, qu'il est vieux. J'ai fait un mauvais copier-coller. Ubisoft en inconnu. Ah non, c'est ça. Créateur de contenu F1. Oh, qu'il est vieux, c'est épouvantable ce spectacle. Oh là 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 là. Il va se baver dessus bientôt. Hein. Il va se baver dessus bientôt. Hein. Oh là là, quel enfer. Ok, c'est bon, j'y suis. Oh, pas beau, hein. Ok, je crois qu'on y est à peu près. TikTok, je vous mets la flèche là où il faut. Et c'est parti. Allez, ouvre-toi, sésame. Voilà. Bah, on y est. Et non, je suis pas rapide, hein. Let's go. Retransmise en direct sur Twitch, on a suivi ça, bien sûr. Et suivi par des dizaines de milliers de spectateurs. J'en étais. La marche de 800 km a généré plus de 600 heures de programme et une incroyable ferveur. Avant de partir, Soufiane a pris deux billets de 10 € pour les remettre en main propre aux deux collecteurs de fonds, comme s'il faisait une offrande à des demi-dieux. Il veut les remercier pour leur travail. Ces moments-là, ce n'est qu'une fois dans une vie. Merci, les villas. Putain, ce rhume là, c'est affreux. Qu'est-ce que j'aime pas être enrhumé? Une des particularités de ces stars d'un nouveau genre est de déclencher de l'agitation chez une certaine catégorie du public en restant par ailleurs de parfaits inconnus pour le reste de la population. C'est vrai, c'est très intéressant ça. Une vraie passion auprès de certains fans. Coucou Sugar. Et puis, alors qu'une grosse partie de la population ne sait absolument pas qui est Bailan et Nico. Hein, demandez à vos parents, les plus jeunes là, s'ils savent qui est Bailan et Nico. Ce qui témoigne d'une archipélisation de la notre célébrité, je trouve ça super. De Squeezie à Inoxtag, en passant par Anime, ils ont mis Anime 23, c'est mignon. Anime, Mastu, Michou et Léna Situation, Léna, les influx, qui dit les influx? Les influx? Les créateurs de contenu, les influx. Oh là là! Et autres streamers se sont fait une place dans la vie des jeunes Français, tout en ne disant strictement rien à leurs grands-parents. Ouais, c'est un truc de vieux, ça, les influx, non? 63% des 18-34 ans sont abonnés à au moins un créateur de contenu. Voilà. Sur les quoi? Sur les. Il est où l'article? Sur les réseaux sociaux. Rencontre organisée dans un centre commercial, pendant un gala de boxe, inauguration d'un restaurant. Ces célébrités réunissent des milliers d'abonnés lors d'événements attrayants, distrayants. Le succès du GP Explorer. Course automobile organisée par le vidéaste Squeezie, Lucas Achard, donne l'aperçu de l'ampleur de ce néo-fandom, communauté de fans. Le 4 octobre, 200 000 personnes, bon, ils reviennent sur le succès de GP Explorer pour expliquer un petit peu aux gens qui connaissent pas cet univers ce que c'est quoi. Par ailleurs, dans le métro, au cinéma, à la terrasse d'un café, le néo-fan peut surgir de nulle part. Manon Delcourt, 30 ans. Créatrice de contenu qui aborde des sujets légers, lifestyle et des thèmes plus deep, profonds, nous dit Le Monde, cumule près de 598 000 abonnés sur YouTube, Instagram et TikTok. C'est qui Manon Delcourt? Encore raté quelque chose, moi. C'est qui Manon Delcourt? Elle se fait régulièrement interpeller dans la rue. Personne ne connaît? Ah bah si, Le Monde dit qu'elle est connue. Bah, levez la main Bah, comment ça, vous connaissez pas? Non? Si, quand même. Bah non, tout le monde me dit. Personne la connaît? Ah bah merde. Oh! Oh merde! Bon, j'espère qu'elle n'est pas dans le chat. Hein. Oh putain, il n'y a pas une personne qui la connaît ici? Ah bah merde alors. Bon, j'espère qu'elle n'est pas dans le chat. Ok. Et donc, elle dit, quand j'entre dans le métro, j'essaie de ne pas croiser les regards. Un eye contact peut facilement déclencher une interaction gênante. Pour Manon Delcourt, il convient de distinguer le simple abonné de fan dont le regard se focalise sur la part la plus intime de son idole. Voilà. Alors, on me dit que c'est anciennement Daring Tia. Ok. Elle se souvient encore de sa première rencontre impromptue dans une, avec une femme dans le centre-ville de Bordeaux. En 2022, une fille qui avait mon âge m'a parlé, s'est mise à hyperventiler. Je ne savais pas du tout quoi faire, j'ai souri, j'ai rougi en attendant que ça passe. Okay. Bon. Cette distinction entre l'adhésion produite par la personne et l'intérêt pour son travail n'est en fait pas si évidente. C'est justement un brouillage de cette frontière qui constitue aujourd'hui la dynamique de la célébrité, où l'on s'attache à un univers global, à une authenticité supposée. La question de l'œuvre devient annexe et parfois il n'y en a tout simplement pas. La seule différence réside dans le fait que la star aujourd'hui est construite uniquement à partir de la mise en spectacle de son intimité, que seule sa vie privée intime son être est source de notoriété de célébrité. Hier, cette intimité accompagne une activité d'acteur, de chanteur, de sportif, ou dans certains cas une identité particulière, un statut rare de princesse, par exemple, Stéphanie de Monaco. Hein ? Aujourd'hui, l'influenceur se contentera d'influencer, et c'est l'interaction qu'il parvient à créer, à entretenir, ce qui constitue le cœur de son activité. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, c'est que les gros créateurs de contenu dont parlait l'article tout à l'heure, les Squeezie, les Bailan, ils créent, ils ont une œuvre qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ils créent des événements. Il crée des rendez-vous, il crée des vidéos, il crée des GP Explorer, des marches entre Paris et Montpellier. Donc, alors, c'est peut-être pas des œuvres. Merci Sean Spencer. Hein, c'est peut-être pas des œuvres, c'est peut-être pas un album de musique, mais ils font des choses. Alors que là, l'article est en train de nous dire, ils sont célèbres juste parce qu'ils sont. Hein? Merci Prout de Cigogne. Il y a un extrait qui t'intéresserait dans le live parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Je ne sais plus à quel moment. Peut-être sur les safaris humains en Bosnie. Mais il faudrait que tu aies la patience d'aller voir cet extrait. C'est à partir de 31 minutes du live parce que je ne vais pas tout te redire là. Mais il n'y a pas de souci. En plus, tu dis bonjour, c'est super poli, donc il n'y a aucun souci. N'hésite pas à aller voir, ça va t'intéresser parce que ça répond à ta question et tu vas voir, tu seras surpris par ce que je te dis. Non. Donc, c'est... Il n'influence pas, enfin, il ne crée pas une fan base, une communauté de fans uniquement parce qu'ils sont. Il y a aussi du travail aussi. Il crée une œuvre. Une œuvre qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En 56, nom de Dieu, en 1956, deux chercheurs américains formulent le concept de relation parasociale. Ça, c'est intéressant. Dans l'artiste Mass Communication and Parasocial Interaction. Ça vient de là. Ça, je ne savais pas ça. Donc, tu as deux chercheurs américains qui créent en 56 le concept de relation parasociale. Ça, ça m'intéresse parce que j'en entends souvent parler et je ne sais pas bien ce que c'est. Ok. L'expression désigne un lien de proximité qui peut s'établir entre des téléspectateurs et des figures médiatisées comme des présentateurs et des acteurs. Donc, avant, c'était avant Internet. Donc, à l'époque, c'était des présentateurs télé ou des acteurs. Ok. Cette théorie est utilisée pour décrire la relation asymétrique, pourquoi asymétrique, qui unit les fans aux créateurs de contenu. Ce sont des relations non réciproques que les spectateurs établissent avec des figures médiatisées. Ok. Lorsqu'on regarde un live de streamer et qu'on est confronté à cette personnalité, on va commencer à se former une opinion, des jugements sur lui, ce qui va façonner petit à petit une relation parasociale. Le streamer ne va pas connaître le spectateur aussi bien que le spectateur le connaît. Ouais, enfin, ça vaut pour tous les... Ça valait pour les acteurs et les chanteurs avant. On est d'accord. Qu'est-ce qui est nouveau? Le Alain Delon, des rêves de vieux. Les Français avaient l'impression de le connaître, mais ils ne connaissaient pas tous les Français. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Pourquoi on parle de relations parasociales uniquement pour les créateurs de contenu? C'était pareil pour les chanteurs. Bah oui, Jojo dit Stan de Eminem, il image bien la chose, ouais. Alors c'est vrai que le Sandre Del West écrit l'interaction avec le chat donne une autre forme d'intimité. Donc, c'est le fait qu'on puisse discuter, me dit Nani Zeno. Ce qui est nouveau, c'est que tu peux leur parler directement via un chat, par exemple. Donc la relation parasociale est plus forte. Ouais. Alain Delon n'est lui-même qu'avec lui-même, c'est pas faux. Oui, je comprends, vous avez raison. les réseaux rendent une impression d'interaction plus proche. Ok. Ça amplifie. C'est pas faux. Bon appétit, Gerson. Les dons aussi. Paramel, le chaudron magique. J'adore ton pseudo. Oui, t'as raison, les dons aussi. Ok. Jade Duraz, entrepreneuse, créatrice de contenu. J'espère que vous contenez Jade Duraz. Ça va chier sinon, hein. Cumule 500 000 abonnés sur TikTok et Instagram. Elle partage des conseils sur le travail et l'entrepreneuriat. Vous la connaissez? Dites pas que vous la connaissez, parce que sinon, ça va commencer à devenir gênant dans cet article du Monde. Toujours pas? C'est qui? Oh non, 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 non! Putain, tous les créateurs de contenu que cite Le Monde, vous les connaissez pas non plus? Mais ils sont... J'adore cet article. Ok. Non, pas Jade au secours. Jeanne au secours. Ok, bon. Elle partage ses conseils sur le travail et l'entrepreneuriat, c'est intéressant. Selon elle, la fan attitude n'est pas indexée sur la taille d'une audience. Qu'est-ce qu'elle dit? Que la taille n'est pas tout. Hein? C'est pas que... C'est pas... C'est... Y a tout... Hein? Tout n'est... Voilà. C'est... Elle a raison. Diraient certains. Hein? Y a pas que... Voilà. Il y a des gens qui ont des millions d'abonnés sur TikTok et qui peuvent vivre complètement incognito. La moitié de ses abonnés ont entre 25 et 34 ans et semblent relativement respectueux. Je suis sur une niche plus mature, dit-elle. Mes abonnés aiment mon contenu, mais ne sont pas mes fans. Il est extrêmement rare qu'on me demande une photo, ce qui est, selon moi, symptomatique. Dans 90% des cas, les gens qui me reconnaissent sont très chill. C'est un mot de jeune, chill. Qu'on traduirait pour les plus âgés par apaisé, je dirais. Non, Louis, de là, j'ai pas été invité, mais je soutiens. Regarde le message en haut du chat. Mais il lui arrive d'être reconnu dans la rue par quelqu'un d'un peu plus pressant et il lui faut alors donner le change. La première fois, une meuf m'a couru après et m'a arrêté en me demandant si c'était bien moi. C'était un peu bizarre, on a parlé 45 minutes, j'étais perdu face à cette relation qui n'était pas sur une échelle de réciprocité normale. Comme elle me connaissait, je me sentais obligé de lui rendre l'appareil. Eh oui. Pour éprouver ce sentiment de proximité, certains fans se déplacent sur le lieu de travail de leurs écoles. Devant Webedia, le Valois-Perret, un studio où des poids lourds du milieu, notamment Inox, sont accompagnés dans la production et la monétisation de leur contenu, des jeunes font régulièrement le pied de grue pour décrocher une photo ou une vidéo. Alors moi, je travaille un peu, vous savez, avec les amis de Webedia. Et le mercredi notamment, quand je sors de Webedia, il y a des jeunes tous les jours, qui attendent là. Pour faire des petites photos. Voilà. En général, ils attendent Inox. Puis à un moment, Inox sort pas, puis il voit le vieux sortir. Là, il dit, bon, bah, faute de grive. Hein. Et là, et on fait une photo avec papy, quoi. Sur TikTok, un ado se faisant appeler Yoshun en fait la collection. Oui, la déception, bah oui, tu m'étonnes. Eh oui, tu m'étonnes. Et dresse un classement des youtubeurs ou tiktokers selon leur sympathie. Avec les paparazzades d'adolescents, les posts de mouvements de foule juvénile constituent l'autre figure imposée qui nourrit le storytelling de ces communautés. Tu es dedans d'ailleurs. Quoi? Je suis dans le classement du gars là? Et ça va ou quoi? Je suis... Le mec fait un classement des youtubeurs ou tiktokers selon leur sympathie, en fait selon leur réaction. Quand ils sont visités comme ça par des fans? Enfin, visités, je m'entends. Et j'ai une bonne note? De mémoire, tu avais une bonne note? Ok. Bon, il y a l'exemple de Nasdas aussi, qui a fermé sa chaîne Twitch, qui est évoqué là. C'est intéressant. Ça s'arrête là? Non, ça s'arrête pas. Non, ça... Oh, l'article, il fait 10 pages! L'article, il fait 10 pages. Lors de leur marche entre Montpellier et Paris, Nico et Balan ne sont pas passés inaperçus, bien sûr, hein, auprès de leurs abonnés. En ville, en pleine forêt, sur la route, ils étaient venus de toute la France pour faire un bout de chemin avec eux, dans l'espoir d'apparaître quelques secondes sur leur live. Les aventures de ces deux compères et les heures de stream sur Twitch ont forgé un socle de délire et de références communs. Imprégnés de leur expression, de leurs expressions, de leur humour, de leur code, les jeunes Français développent un lien affectif avec ces figures du quotidien qui ont contribué et contribuent encore à la construction de leur identité et au développement de leur sociabilité tout autant que leur goût culturel. C'est intéressant. Hein. C'est dans Le Monde, Samy Coimbra. C'est une professeure des universités qui s'appelle Anne Cordier qui écrit ça. Entre la fanbase et le créateur de contenu, le contact est facile, le tutoiement immédiat. Loïc, par exemple, étudiant en histoire, n'a pas été troublé de voir Nico et Baleine en chair et en os le 1er octobre. Il y a déjà une proximité car avec le chat interactif, tu peux leur parler à distance sur ton écran. À l'inverse, tu ne pouvais pas interagir directement avec un chanteur ou une chanteuse, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En dépit du temps et de l'argent qu'il aura consacré, puisque le jeune homme explique qu'il a donné 100 euros aux deux streamers une fois, Loïc a tenu à nous préciser qu'il n'idolâtre pas Nico et Bailan. C'est cool de les voir en vrai, mais il ne faut pas les sacraliser, ça reste des gens comme nous. On aime ce qu'ils font, on vient les voir dans la vraie vie, mais on en reste là. Ceux qui les idolâtrent sont surtout des enfants qui n'ont pas encore le recul nécessaire. Désolé, le rhume. Après, il y a aussi ceux qui se projettent vers ce métier, finalement. D'après une étude de l'Observatoire CTLM et Harris Interactive, la moitié des personnes âgées de 15 à 24 ans en France expriment une appétence pour le métier d'influenceur. Waouh! Contre 21% des Français interrogés. La moitié des 15-24 ans exprime une appétence pour ce métier. Même si peu d'influenceurs vivent correctement de cette activité, une étude de 2024 montre que 66% des créateurs de contenu gagnent moins de 5000 euros par an. L'intérêt du fan est également nourri par un fantasme de reproduction de trajectoire. Ce qu'on aime chez le streamer, c'est autant le streamer lui-même que l'idée qu'un type lambda, qui n'a rien de particulier, peut accéder à la lumière. C'est intéressant. Ces nouvelles célébrités instaurent un lien d'ultra-proximité avec leur public qui n'existait pas jusqu'alors avec les stars plus traditionnelles. Si tu vois Jean Dujardin dans la rue, tu vas hésiter à aller le voir parce qu'il a ce truc charismatique d'acteur d'homme mûr. Oui, enfin bon, l'homme mûr. Hein. Si tu croises Inox Tag, tu vas aller le voir facilement alors qu'en fait, ce n'est pas plus votre ami que Jean Dujardin. Expliqué Mastu dans une vidéo qu'il a publiée récemment. Enfin, en 2022. Pas si accessible que ça, Mastu n'a pas de... Le monde Ah, je ris. Je comprends maintenant pourquoi Le Monde a interviewé des gens que vous ne connaissiez pas tout à l'heure, parce qu'on a évoqué deux créatrices de contenu que je ne connaissais pas, et je trouvais ça... Je me dis, bah, tu connais vraiment personne, et vous ne les connaissiez pas non plus. Et en fait, la fin de l'article, elle est géniale. Donc, il cite Mastu. Voilà. Et il dit pas si accessible que ça, Mastu n'a pas donné suite à notre demande d'entretien. Pas plus d'Inox Tag, Nico et Bailan. Oh, le vent, le seum! Mais c'est drôle. En fait, on comprend que Le Monde a cité des créatrices de contenu qui font sûrement un très bon travail, je ne les connais pas. Mais que je ne connais pas, que vous ne connaissez pas. Et on comprend la toute fin de l'article que Le Monde a demandé à Mastu. À qui ? Attends ! Attends ! Il est où le truc ? Mais je l'ai perdu ! Ah oui, à Bailan, à Nico, à Inox. Et en fait, les mecs, ils ont dit « Bah non, on n'a pas le temps. Enfin, » Ils ont peut-être pas répondu, quoi. Ah, c'est drôle. C'était pas la fin de l'article. Oh. Qu'il est bon de rire ! Qu'il est bon de rire. Ah ouais, ouais. D'accord, ok. C'est mignon. redonnons un peu sérieux. Contrairement aux artistes et aux sportifs célèbres, les créateurs de contenu pris dans la tenaille du pacte d'authenticité qu'ils signent implicitement avec leur public jouent dans la vraie vie la même partition que dans leurs vidéos. À la boulangerie ou sur le mont Everest, Inoxtag ne doit jamais cesser d'être Inoxtag. Parce que les streamers et les youtubeurs jouent sur la valeur d'authenticité, la mettent en scène, la limite entre le rôle des créateurs de contenu et la personne qu'ils sont en dehors de ce rôle est confuse. Ouais. Sauf que, pour le coup, pour connaître quelques-uns de ces créateurs de contenu, Bailan, pour ceux qui ont été évoqués, Mastu, Inox, pour les noms qui ont été évoqués là, quand ils sont hors création de contenu, hors live, hors, bah, c'est les mêmes. Alors, Bailan, quoi qu'il fait un peu plus le fou parfois, fait un peu plus de spectacle, mais Bailan, c'est le même. Nico, c'est le même. Inox, c'est le même. Donc, j'entends, hein. J'entends la mise en scène. Mais ce qui séduit aussi, c'est que ces gens se mettent pas si en scène que ça. En tout cas, n'inventent pas un... Ah ouais, Inox en réunion de taf, il se roule par terre comme dans la vidéo. Ouais, il écoute pour fou, ouais. Mais ils inventent pas tant que ça un personnage. Tu peux pas être, pour ceux qui streament, tu peux pas être en live des heures tous les jours pendant des années avec un... et tenir un personnage aussi longtemps, c'est impossible. Et c'est ça qui séduit aussi. La différence, elle... alors que tu peux imaginer qu'un comédien ou un chanteur, il est plus facile d'inventer un personnage quand même. Je crois. Cette relation un peu boiteuse s'accompagne d'une menace inhérente, celle de découvrir que le streamer joue en fait la comédie de l'authenticité. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça d'ailleurs. Sur les réseaux, les vidéos et messages, parodiques ou non, tournent autour de la thématique du vrai visage des néo-stars. Comme si une ombre planait en permanence sur leur masque social. Ce serment d'authenticité est le carburant du modèle économique de la nouvelle célébrité. Sur Twitch, s'ils adhèrent vraiment à leur univers, les viewers, les spectateurs peuvent rémunérer directement les streamers par le biais de dons. Bon, vous connaissez tout ça. Sur YouTube ou TikTok, par exemple, la monétisation d'une vidéo est étroitement liée à la taille et à l'engagement de la communauté. Les créateurs de contenu capitalisent sur la proximité avec leur audience, ça c'est vrai, bien sûr. C'est d'ailleurs un vrai sujet pour ceux qui ont un niveau de vie qui n'est plus celui de monsieur ou madame tout le monde, de faire en sorte que leur communauté continue à s'identifier à eux, explique Jade Duraz. L'authenticité est toujours contrôlée, les créateurs stars ne vont pas te dire qu'ils ont structuré leur société en holding par exemple. La fortune des mastodontes de l'influence se chiffre pourtant en millions de dollars. D'après le magazine américain Forbes, le vidéaste américain MrBeast a gagné près de 85 millions de dollars en 2024. Ça j'entends ça. Qu'à un moment, pour les plus gros, ils sont obligés de rester dans un truc de proximité slash simplicité, alors que forcément, leur train de vie, il a dû changer quoi. Ça, oui. Mais je pense qu'on le sait, non? Cette proximité que les créateurs de contenu cultivent plus ou moins sciemment peut se retourner contre eux. L'article est plutôt intéressant. Dans la vidéo « J'ai besoin d'une pause » publiée sur YouTube en 2022, Mastu, décidément, relate les comportements de fans qui ont pu l'épuiser moralement et nerveusement, abritant près d'un établissement scolaire à l'époque. Hein, les gens sonnent chez moi presque tous les jours, parfois même la nuit. Ça Mastu, ça a été compliqué pour lui, hein. Des parents sont déjà venus sonner pour leurs enfants. Il documente, vidéo à l'appui, ces moments où des jeunes l'ont filmé en bas de ses fenêtres. L'influenceur Seb Lafrite, victime de son pseudonyme, expliquait au Monde en 2018 que son balcon parisien du premier étage était le réceptacle de jets de frites. Ok. Le vidéaste signe désormais Seb tout court. Bah, ça aurait pu être pire, hein. Il aurait pu s'appeler Seb... Seb les œufs, par exemple. Il aurait pu avoir ses balcons visés par des jets d'œufs en permanence. Oh, attendez. Imaginez, pas Seb la frite, mais Seb caca. Ou Seb bouillabaisse. Même Seb caca. Seb caca. Ah. Bon. Alors, je deviens sérieux parce qu'on arrive sur un sujet qui est par contre très chaud, des cas de harcèlement ont aussi été signalés par des créatrices de contenu, parce que pour les créatrices de contenu, c'est parfois très 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 compliqué, on peut pas dire toujours. En octobre 2024, la streameuse Kyria évoquait sur X le comportement d'un fan érotomane lors de la PJW. Ce mec est venu de Nantes à Paris pour essayer de me voir alors que je l'avais bloqué partout. Il m'a fixé pendant 4 heures, il cherchait un eye contact. L'homme attend la streameuse à la sortie du salon, la suit jusqu'à la gare où elle doit prendre un train. Je me rappelle de cette histoire. Je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie, j'ai fait la pire crise d'angoisse de mon existence. À la suite de ce témoignage, d'autres streameuses ont fait état de comportements de fans obsessionnels comme Juliette Ars, Kayane et Charlie. Et oui. Pour anticiper les débordements, certains influenceurs renforcent leur sécurité. Solène Jureaudieu, qui travaille dans une agence de marketing, constate que les rencontres avec les abonnés sont plus encadrées qu'avant. Ok. C'est la célébrité, quoi. Pour limiter les dérives, certains vidéastes s'adressent directement à leur communauté, c'est intéressant. F-Society dit pour les filles, c'est bien plus terrible, j'ai l'impression. Oui. Oui, il y a zéro débat là-dessus. Cyrus North, par exemple, il a déclaré « J'ai beaucoup de respect pour vous, j'espère que vous en avez pour moi, je suis extrêmement fier de vous avoir à cette place de la communauté. Je pense que c'est un truc qu'il faut se rappeler, nous ne sommes pas des amis, dit-il. » Autre mesure possible pour endiguer les débordements d'une fanbase gonflée à bloc, agir sur le contenu lui-même. Pour préserver son intimité, Manon Delcourt ne publie jamais de photos prises de sa fenêtre, ne publie pas de story sur sa famille. L'engagement de ta communauté est aussi le miroir de l'engagement que tu mets dans tes contenus, affirme Jade Duraz. Oui. Avoir des fans me mettrait mal à l'aise, je ne parle pas de ma vie, je ne parle pas de mon mec, c'est une distance choisie. L'existence d'un noyau dur de fans peut aussi réserver de bonnes surprises. Dans les moments difficiles, il suffit de balancer une story en disant « je vais être absente, ça ne va pas fort cette semaine » et il y aura une foule de messages de soutien en continu. C'est une sensation qu'on ne peut pas avoir dans d'autres corps de métier, affirme Manon Delcourt, de quoi avoir plus d'indulgence pour les fans rencontrés inopinément en attendant sa baguette ou sa quatre fromages. Alors, j'ai pas compris cet article. Pour être streamer, du coup, il faut manger des pizzas 4 fromages ? Je pense que j'ai raté un truc. Bon, c'est pas inintéressant. Il y a le truc... Je pense pas qu'on ait appris 1000 choses. Mais au moins, j'ai enfin compris la définition de relation parasociale. C'est comme ça qu'on dit, non ? Parce que celui-là, c'était pas très, très clair pour moi. Attendez, je vais me moucher un coup parce que c'est affreux ce que je vous fais. Là, bougez pas, j'en ai pour 10 secondes.
Encore faut-il que je trouve un sopal.
Pardon pour les amis qui nous écoutent en replay. J'étais un peu enrhumé. Ouais, non, mais c'est intéressant. Les citations datent de plusieurs années, dit Asmodel. Oui, mais enfin, l'article du Monde explique que les gros créateurs de contenu n'ont pas répondu à la demande d'interview. Quoi. J'ai un peu l'impression que c'est un article pour dire « Vous n'êtes pas des stars, arrêtez de nous prendre nos audiences, c'est pas gentil. » Moi, je reproche aux médias traditionnels depuis longtemps, ça n'a pas tant changé que ça, que chez le média traditionnel, notamment dans la presse écrite que j'adore pourtant, il y a parfois une forme de mépris inconscient vis-à-vis des nouveaux médias, des nouvelles plateformes. Quoi. Je n'ai pas l'impression que c'est le cas dans cet article. Voilà. Ce qui est vrai, c'est qu'en revanche, les Mastu, les Inox et Bailan qui n'ont pas répondu à la demande d'interview du Monde, tout simplement, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est parce qu'ils ont des emplois du temps de fou et qu'ils savent aussi que leur public n'est pas tout à fait le même que le lectorat du Monde. Et donc, ils vont passer du temps à communiquer sur un truc auprès d'un public qui ne les consomme pas. Bon, donc, ils se disent c'est peut-être pas une priorité, quoi. Merci, Tesso. Non, l'article est ok, en vrai, il s'interroge. Et puis, il est pas méprisant, je trouve. Et après, il y a un point sur lequel je suis pas d'accord, c'est comment l'article nous laisse entendre quand même que la célébrité de ces créateurs de contenu qu'on vient d'évoquer là viennent de ce qu'ils sont. Voilà. Plus de ce qu'ils font. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors évidemment, avec l'exposition quasiment quotidienne de leur personne sur les réseaux, et encore plus quand tu es en live, ouais, il y a un truc où c'est toi que tu mets en avant. Mais tu fais des choses aussi, hein. Tu fabriques un contenu. Quand même. Alors qui peut être plus ou moins apprécié, mais quand même. Même si tu fais un stream basique de gaming, bah tu apportes ton gameplay, ton humeur, ton regard, éventuellement ton humour, ton énergie, tu vois. Là, je suis pas d'accord sur ce truc-là. Mais pour le reste, ouais. Après, on apprécie ou pas le contenu, quoi. Les amis, des bisous. Allez. Mais attention, hein, qu'est-ce que tu dis? C'est attention, ça englobe les influenceurs TikTok, Insta qui font pas grand-chose, pas juste des streamers YouTubeurs. Ah ouais, ok, je comprends. Ouais. Ok. Ouais, oui, d'accord, j'entends, j'entends. Ok. Oui, d'accord. Peut-être que je dois mettre un bémol à ce que je dis. À savoir que peut-être qu'il y a des créateurs de contenu dont l'acte créatif est pas foufou, quoi. J'entends. Comme le dit Paramé, t'es mon nouvel ami, hein, j'arrête pas de te citer. Hein. La principale différence avec la télévision, c'est la proximité plus que le contenu en lui-même. Ouais. Ok. Bisous sur ton gros doigt de pied, Sam, on t'aime. Alors je me suis jamais fait embrasser là, mais j'apprécie. Les amis! Excusez-moi, je monte mon bedou. Les amis, je rejoins la famille pour. Putain, 19h23, mon épouse m'a. Attendez, je rentre pour dîner. Putain, il est tard! Je rentre pour dîner, point d'exclamation. Putain, je pensais qu'il était 18h, 18h30. Ok. Amis TikTok, des bisous, je vous quitte, je vous dis au revoir. Je vous retrouve. Je vous retrouve quand? Je vous retrouve lundi matin pour la revue de presse. N'hésitez pas à venir demain soir, dimanche, à 20h. Sur Twitch, parce qu'on a un joli samplay, mon émission de découverte du monde des jeux vidéo, de la culture des jeux vidéo, avec l'ami, je vous mets le visuel aussi sur Twitch, hop, avec l'ami Camille Combal. Voilà. Donc ça, c'est demain soir, 20h, mais uniquement sur Twitch. Voilà. Et puis sinon, bah, c'est lundi matin pour la revue de presse, parce que la revue de presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Imaginez un monde où je fais une revue de presse tous les jours du lundi au dimanche. Là, on a fait un 6-7. On a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ha ha! Des bisous. À très vite. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bon week-end. Amis de TikTok. Twitch, je vous garde. On va faire un petit raid, bien sûr. Forcément vers Stream for Humanity, d'ailleurs. Bye bye TikTok. À très vite. On n'est pas tes amis, mon Sam. Attention à la relation parasociale. J'adore! Ok, ça je peux quitter. Ok, vous êtes là. Ok, tout est ok. Qui est en live là? Il y en a un. Il y a Kamel, il y a Inox, il y a Gotha, il y a Bailan, il y a Terracid, il y a Magla, il y a Rayou, il y a Squeezie, il y a Bagheera. Tiens, il y a ah bah, Bagheera. Bagheera qui était avec moi mercredi. Dans Time Out, ça me faisait trop plaisir. Et je suis trop content d'avoir fait un truc avec elle. Ah, elle est avec plein de gens là en plus. Ah, elle est avec Natou, sa copine Natou. Elle est avec. Ah, super. On va voir Bagheera. Let's go. Une streameuse en plus. Et moi, je vous retrouve ce soir pour du Valo. Bagheera. Let's go. Les amis, à ce soir pour du Valo, voilà. N'hésitez pas à donner de la force aux créateurs de contenu, aux créatrices de contenu qui sont mobilisés pour Stream for Humanity. C'est très beau, c'est très bien ce qu'ils font, c'est magnifique. Voilà, c'est des belles assos. Et on va voir Bagheera qui est en live justement, et qui a beaucoup préparé, qui a beaucoup bossé là-dessus pour stream pour Humanity. Hein. C'est du taf, c'est du taf. Allez les soutenir. Merci vraiment. Je vous dis à ce soir. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Ciao, ciao. Ça part dans 5, 4, 3, j'ai l'impression de faire décoller une fusée, 2, 1, let's go soutenir Bagheera qui est en live. Ciao.
Bah, du coup, faire fuir les gens, mannequin, mannequin. imaginez, nous avons 80% de célibataires dans ce chat, mais là plus jamais.